Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello, bienvenue sur le podcast Intention. Je suis Isadora et moi Marisa, nous sommes jumelles et entrepreneurs dans le domaine de l'alimentation saine depuis 2015. Sur nos différentes plateformes, que ce soit Instagram, YouTube ou ici en podcast, on partage nos recettes, nos conseils et nos astuces santé et bien-être. Alors, vous l'aurez compris, ici on parlera évidemment d'alimentation et de rééquilibrage alimentaire. Mais comme l'assiette ne fait pas tout et que pour nous, une vie saine, c'est avant tout une vie épanouie, on parlera beaucoup d'hygiène de vie et d'épanouissement personnel à travers différentes discussions sans filtre, en solo, en duo ou en compagnie d'invités passionnés et surtout très passionnants. En fait, notre intention est toute simple finalement. Vous aider à vivre la vie que vous méritez. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Bonjour Isadora, bonjour Axel.
Bonjour les filles.
Alors aujourd'hui, on est tellement contentes de t'avoir. Et je pense que nos auditeurs aussi. Parce qu'on avait dit sur les réseaux que nous allons enregistrer un épisode avec toi.
Ouais.
Pour parler de sobriété entrepreneuriale, puisque nous t'avons volé complètement ce terme. Mais nous te le volons en te le disant. Nous
sommes des chouettes goleuses. Je ne pense pas être l'inventeur de ce terme-là. Je l'ai vu quelques fois. Pas beaucoup, mais quelques fois. Ou sinon, c'est slow entrepreneuriat.
Oui, c'est vrai que ça, slow entrepreneuriat, on le voit un peu plus facilement que sobriété entrepreneuriale. Mais tu vas nous apprendre un petit peu, nous parler de ce terme-là qu'on affectionne beaucoup.
Bah oui, parce que moi, je ne savais pas, que je pensais que c'était toi qui l'avais inventé. Mais du coup, je suis déçue. Axel.
Désolée.
Bon, c'est pas grave. Avant de commencer quand même sur ce sujet, on va dire qui tu es, parce que
oui.
C'est intéressant quand même. On va te laisser te présenter après, mais moi, je peux me permettre de te présenter parce qu'on te connaît un petit peu. En plus, c'est rare qu'on ait un épisode où on te voit, on peut même te toucher parce que tu es avec nous, parce que tu es une angevine, donc ça fait plaisir qu'on puisse boire un thé ensemble. Enfin, une menthe poivrée plutôt, une infusion verveine menthe poivrée. Donc, Axel, qui es-tu? Donc, nous, Axel, on te connaît parce que tu as été community manager pour nos deux entreprises, donc Snackies à l'époque et Intention en suivant. Et bon, on n'est pas des super chefs, puisqu'à chaque fois, on dit on quitte l'entreprise. Axel, il faut que tu partes. Allez, on en crée une deuxième, tu viens, Axel.
C'est ça.
Bon, on arrête l'entreprise, Axel, il faut que tu partes. Mais promis, ça se passe très bien entre nous. En tout cas, nous l'espérons.
Tout à fait.
Et bon, on continue à se fréquenter de temps à autre. Et souvent, bah, quand on déjeune, etc., on partage nos points de vue sur autant nos vies de femmes, nos vies de mères, que aussi notre vie de chef d'entreprise. Et, mais je ne sais pas si c'était quand on s'était vu ou c'était sur un poste que tu as parlé. Je pense que c'est plutôt sur un poste que tu as parlé de sobriété entrepreneuriale, parce que toi, tu es donc community manager en freelance.
Oui.
Depuis combien de temps?
Ça fait 3 ans, je suis dans ma 3e année. Donc j'ai commencé en 2020, qui était vraiment une belle année de Covid. Donc vraiment, très belle année pour se lancer. Et puis, donc la première année, il y a eu le Covid. La deuxième année, j'ai eu la bonne idée de faire un enfant.
Quelle
idée! C'est pas ironique, une belle idée. Et puis c'est un bel enfant en plus. Et du coup, l'année dernière, c'était ma première vraie année un peu normale, quoi. Donc là, en fait, j'entame ma 4e année en vrai.
Ah.
Et donc, voilà, je suis freelance. Et pourquoi j'avais parlé de sobriété entrepreneuriale? Parce que je trouvais que quand je me suis lancée, forcément, et aussi sur les réseaux sociaux, j'allais beaucoup sur LinkedIn. Et que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram, je trouvais qu'il y a une espèce de vision de l'entrepreneur sur lequel, finalement, je ne me retrouvais pas trop, quoi. Un truc très, comment dire, très dans la performance. dans plein de, d'autres sujets, il y a le cas, mais aussi dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire il y avait ce fameux 10 000 euros à gagner tous les mois, il fallait montrer qu'on travaillait beaucoup, qu'on était hyper acharné, et moi j'avoue que c'était pas forcément mon rêve. Et surtout, je trouvais que il y avait un peu, on érigeait ça comme une normalité, alors que je trouvais que c'était pas, enfin, on n'était pas obligé de gagner 10 000 euros. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on mangeait des patates toute l'année, quoi. Et qu'il y avait vraiment un espèce de, d'entre-deux qui était facile à trouver et que moi, ça m'allait bien. Et il y avait aussi cette idée de ne pas être tout le temps dans l'hyper-croissance. Là où souvent, quand tu te lances en indépendant, bah, les gens imaginent toujours que tu vas vouloir embaucher, que la voie royale, c'est d'embaucher, c'est d'avoir des salariés, c'est toujours croître. Et moi, je n'étais pas du tout dans ce truc-là. Et moi, j'ai jamais voulu embaucher. J'étais très bien toute seule. Et je suis toujours dans cet état d'esprit-là où finalement, moi, je veux trouver un bon équilibre et j'ai pas dans l'idée de recruter des gens. Je trouve que c'est une pression supplémentaire et on le dit pas trop.
Mais est-ce que c'est, pour toi, c'est quelque chose qui était naturel? Parce que toi, avant d'être freelance, c'était quoi ton métier? Et quand tu as commencé à dire, bon voilà, moi, je quitte mon job en salarié et je deviens freelance, combien de temps il t'a fallu entre le moment où tu as commencé et te dire, ouais, moi, en fait, ce que je vois sur les réseaux, parce que forcément, ton métier, c'est sur les réseaux aussi, donc tu vois quand même tout ce qui se passe, voilà, et te dire, en fait, moi, ça ne me... Je ne me sens pas concernée ou, en fait, moi, je me sens totalement en décalage avec ce genre de discours.
Alors, moi, effectivement, avant, j'étais salariée pendant 10 ans. Et après, je suis venue au freelance un peu par hasard parce que finalement, ça s'est fini pas très bien sur ma dernière expérience de salariée. J'avais vraiment besoin d'être... seul aux commandes. Voilà, c'était un truc qui me plaisait pas mal. Et après, c'est là que le monde un peu du freelance s'est ouvert à moi, ou en tout cas, je me suis intéressée. Et c'est là où j'ai découvert un peu tout ce truc-là. Mais c'est vrai que ça me correspondait pas. Je sais pas comment dire sur le fait que je peux pas dire que j'ai eu déclic, je veux dire. Mais je savais que c'était pas pour moi. Et c'est vrai que souvent, je trouve qu'on oublie le fait de s'écouter. Et moi, je conçois totalement que des gens ont envie de monter une boîte, ont envie d'avoir des salariés, de croître que c'est leur truc. Mais si toi, c'est pas ton truc, c'est pas ton truc. Et je fais toujours la métaphore avec l'alimentation. Je pense que c'est bien pour être sur ce podcast. Mais comme on dit, par exemple, il faut vraiment s'écouter dans l'alimentation et ne pas suivre forcément à la lettre ce qu'on entend partout. Eh ben, c'est exactement pareil pour moi pour l'entrepreneuriat. Il faut vraiment s'écouter, savoir ce qu'on a envie de faire, savoir ce à quoi notre vie veut ressembler et adapter le boulot à ça, quoi.
En fait, tu n'as pas attendu un burn-out, un burn-in. Tu n'as pas attendu comme nous, en fait, si tu veux, d'aller au max, jusqu'à avoir un peu lâché notre santé mentale. Toi, tu l'as fait quasiment dès le départ.
Alors, pas vraiment. En fait, si je donnais des étapes, je dirais que la première année, c'était plutôt la recherche de la rentabilité. Donc, c'était vraiment cette idée de je teste plein de trucs. En tant que community manager, par exemple, j'ai testé des formations, j'ai testé de donner des cours, testé différents formats. Voilà, je fais plein de choses aussi pour tester ce que moi, j'avais envie. Au-delà de la rentabilité pure financière, moi, ce que j'aimais bien. Par exemple, donner des cours, je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout ça. En plus, c'était dans des conditions, tout était en visio avec le Covid et tout. Vraiment, non, plus jamais. Les journées entières, catastrophe. Et ça, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Par exemple, j'ai testé du coaching, de l'accompagnement. Alors, du coaching, pas comme on l'entend habituellement. Du coaching, c'était plus, par exemple, pour du community management, je pouvais aider, mais après, les gens mettaient en place. C'était à peu près ça. Et il y a des choses qui m'allaient et des choses qui ne m'allaient pas du tout. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah non, ça ne va pas le faire. Mais dans tout ce test, là, je n'étais pas trop dans le côté très sobriété entrepreneuriale parce qu'aussi, j'avais pas la même mode de vie, j'avais pas ma fille, j'étais pas parent. Clairement, ça change aussi beaucoup de choses quand on devient parent. Donc en fait, je pouvais travailler de 8h le matin à 21h si je voulais. Donc je dirais que la première année, c'était vraiment cette recherche de rentabilité. La deuxième année, j'ai eu ma fille. Donc là, je me suis dit, ah, tiens, j'ai plus le même temps vraiment pour travailler. Et surtout, je voulais pas subir mon travail. Parce que je me suis dit, mince, si je suis indépendante, c'est pas pour subir tout, quoi. Donc, je me suis dit, ah ben là, il faut que je cherche un bon équilibre pour être rentable, mais ne pas chercher toujours à avoir plus et ne pas être complètement sous l'eau et malheureuse, parce qu'au final, c'est ça le bout du bout. Donc c'est un peu comme ça que je suis arrivée à cette idée de oui, la sobriété entrepreneuriale, c'est pas gagner des clopinettes, parce que je trouve que parfois c'est un peu ce qu'on dit. Me remerciez pas pour cette expression, mais c'est pas mal gagner sa vie et comment dire, se contenter du minimum, tu vois. Mais c'est plutôt se dire qu'est-ce que j'ai besoin pour être confort. Mais ça veut pas dire que je vais rouler en Ferrari et que je vais être dans une villa à 500 000 balles, quoi. Donc c'était vraiment ça, c'était me dire bon ben où est mon équilibre. Et finalement, une fois que la première année est passée avec la rentabilité, d'abord j'ai pu me rendre compte de ce qu'était la rentabilité pour moi, ce que j'avais besoin moi pour être rentable. Et après j'ai pu définir ce que je voulais comme typologie de clients, de business. Et après la deuxième c'était de trouver cet équilibre là. Mais l'équilibre c'était être un peu au-dessus du seuil de rentabilité, mais sans être x10 par rapport à mon seuil de rentabilité, quoi.
Une question qui avait été posée sur Instagram, parce qu'on avait prévenu qu'on allait t'inviter, il y a eu pas mal de questions, qui disait, est-ce que tu penses, toi, qu'on peut être dans la sobriété entrepreneuriale dès le début ? Donc là, moi, je trouve ça intéressant ce que tu as dit, parce qu'en soi, c'est peut-être pas non plus un conseil de dire tout de suite viser la sobriété, mais d'abord, la première chose à faire, c'est plutôt de définir quel type d'activité. Ça, c'est intéressant parce que qu'on soit community manager, comme toi, t'as choisi de faire plusieurs activités. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut... Demain, je sais pas, tu voudrais faire quoi comme entreprise ? Tiens, qu'est-ce que vous voudriez faire comme entreprise ?
Ça peut être consultante.
Oui,
tout à l'heure,
ouais.
Consultante, ça peut être...
Bah pareil, tu veux créer... Je sais pas, tu crées un truc tendance depuis quelques années, des lingettes démaquillantes, voilà. Ouais. Tu dis, soit je crée... Tu peux t'essayer de créer ta boîte physique... Donc, non, tu peux tester d'abord de vendre, par exemple, dans des petites boutiques auprès de chez toi, où tu dis, ça fonctionne pas des masses, j'ouvre mon propre e-commerce, ou je fais des ateliers pour créer, voilà. Donc, la première idée, je trouve ça intéressant d'abord avant de se dire, figé, je veux faire cette entreprise-là, tester quelques activités. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment viable de se dire dès le début, bim, moi, je veux être slow entrepreneur ?
Je dirais non, pas tout de suite, en tout cas, parce que c'est risqué. Moi, je dirais que dans le premier temps, il faut vraiment apprendre à se connaître et à connaître son business, quoi. Et ça, tu es obligé de tester plein de trucs, quoi, au début. Et ça dépend aussi beaucoup du business. Que le community management, il y a quand même un truc génial, c'est que c'est très récurrent de base, quoi. Nativement, le community management, si tu travailles avec un client, tu vas travailler avec lui tous les mois. Et donc, tu vas avoir une rentrée d'argent tous les mois. Tu n'as pas à rechercher des clients tout le temps. Ça, c'est aussi une énorme facilité, hein. Je ne m'en cache pas. Mais après, franchement, pour moi, la première année... C'est du test, c'est de l'apprentissage et c'est aussi une partie pour moi plus sécurisation, rentabilité et sécurisation. Moi, j'ai beaucoup travaillé la première année, j'étais pas du tout dans le slow entrepreneuriat, mais pour me faire une trésorerie, pour être plus cool et pour après passer sur ce mode slow. Parce qu'évidemment, si on a une trésorerie qui est solide, c'est plus facile aussi d'être dans le slow entrepreneuriat et de refuser des clients, par exemple.
C'est très intéressant ce que tu dis là, parce que ça rejoint un peu, nous, on en parlait il y a quelques jours, je pense, toutes les deux, ou je sais plus si c'est avec toi ou avec Mathieu, bref. Souvent, on va se dire, par exemple, là, on est dans un mode de vie un peu plus slow, et parfois, avec Marisa, on se dit, c'est normal qu'à 16h, c'est bon, moi, j'ai fait mes tâches de la journée, j'ai travaillé, mon salaire est le même, il est tombé, etc. Et on oublie, je pense que c'est Marisa qui m'avait dit ça il y a quelques jours, moi j'ai fini à 16h, Marisa elle aime bien se rajouter si possible, mais ça on viendra après, il y a une question comme ça. Et moi je dis, super, on a fini tout ce qu'on avait à faire aujourd'hui à 16h, à demain quoi. Et ce que je lui disais c'était, oui mais n'oublie pas tout le travail qu'il y a eu derrière, de toutes ces années d'une création d'une communauté, de toutes ces années où justement on a énormément travaillé, alors je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, hein. Mais ça rejoint ce que tu disais dans le sens où la première année, en tout cas, ça peut être la deuxième, ça peut être les deux premières, ça peut être les trois premières, ça dépend aussi du type d'entreprise qu'on a.
Exactement.
Mais nous, ça fait 7 ans qu'on a travaillé quand même beaucoup. Donc, il est normal qu'à un moment donné, quand on veut être slow, oui, mais il y a trésorerie qui est là. Oui, il y a les clients qui sont là. On a mis des années pour construire une communauté de clients fidèles, qui reviennent, etc. Donc, oui, au début, je ne vois pas comment on en serait arrivé en disant on est slow entrepreneur, on fait des vidéos YouTube slow entrepreneur, mais on ne sait pas quel type de vidéos vont marcher. Au début, il faut en faire beaucoup pour savoir quel va être ton... Parce que je veux dire, notre première vidéo, c'est quand même de tester des saucisses faites maison vegan à notre famille. Hein. Bon, on a vu que ça... C'était pas ça. Mais non, c'est intéressant parce que je sais que quelqu'un nous avait posé la question à l'époque en disant oui, mais aujourd'hui, vous pouvez revendiquer être slow entrepreneur, etc. parce que vous avez votre background, mais c'est évident. De toute manière, sauf si vraiment tu as zéro charge dans ta vie, parce qu'on est quand même dans une société où il n'y a pas le choix, il faut travailler. Enfin, l'argent, c'est ce qui nous, c'est le nerf de la guerre, donc il n'y a pas le choix. Donc, soit tu as déjà un pavillon qui t'avait été offert par tes grands-parents, etc. Et donc, tu n'as pas à payer de loyer, tu n'as pas de charge, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas à te vêtir. Non, mais sinon, on doit tous, au début, travailler pour justement consolider quelque chose, ouais, c'est sûr.
C'est ça. Alors, si, ça doit exister, certainement. Mmh. Il y a certainement des business où tu peux être slow entrepreneur direct, tu as un revenu direct, peut-être, mais je pense que c'est à la marge.
Ouais, ouais, je pense.
Et après, ben, il n'y a pas de baguette magique. Moi, je vois beaucoup de choses sur les réseaux en mode oh, mais tu peux travailler que 3 heures par jour et gagner 10 000 euros par mois. Bah, ça, c'est généralement parce que avant, effectivement, comme vous, vous avez beaucoup travaillé, vous avez constitué une communauté ou parce que vous avez fait beaucoup de choses avant, mais il y a. C'est un peu comme tout, il n'y a pas de baguette magique. Si j'en reviens avec l'alimentation, c'est comme les régimes qui vont promettre de perdre 5 kilos en 3 semaines. Bah, a priori, ça ne va pas tenir sur la durée, quoi.
Et ce qui est intéressant, ce que tu as dit, j'aime beaucoup parce que ça me fait penser à la Isadora et Marisa d'il y a 5-6 ans. Et je trouve ça vachement ouf que toi, tu te sois tellement bien écoutée pour te dire dès le début... moi, je veux rester sur mes valeurs, comme tu disais tout à l'heure en off, tu disais, je veux respecter mon contrat de base avec moi-même. J'ai trouvé ça très bien parce que nous, il y a quelques années, quand on avait fait un épisode de podcast avec Siam, donc Génération XX,
oui.
Isadora et moi, au podcast, on disait vraiment, nous, notre but, c'est pas du tout ni d'embaucher, ni de trucs. À la base, nous, on voulait juste un kiff toutes les deux, un business qui nous fasse vivre, mais... On voulait pas scaler, comme on dit dans le milieu maintenant, tu vois. Là où nous, on avait ça dans notre tête, donc c'était de base, nous, on est des nanas, on veut être toutes les deux dans notre entreprise et peut-être évoluer, mais bon, pas plus. Mais nous, après, on a foncé dans ces trucs, justement, que toi, t'as vu sur les réseaux, sur les 10 000 cas par mois. Nous, on les a vus. On a beaucoup écouté de podcasts, surtout américains, sur ces sujets-là. Comment avoir autant de chiffres d'affaires. Un million, nous, on a vu un million. Toi, t'es une petite joueuse, toi, t'as vu 10.
Grave.
Nous, on a vu un million. Et donc, moi, c'était devenu mon objectif, en fait, d'atteindre le million. Et du coup, c'est comme ça qu'on est rentré dans la roue et on ne s'est plus arrêté jusqu'au moment où nous, là, ça stoppe, en fait. Là, vous êtes les filles, vous êtes au bout du bout. Et il faut retourner... à vos valeurs du début, au contrat de base, relis ton contrat à la base que tu avais fait avec toi-même et que tu as totalement mis de côté. Tu as rompu le contrat, en fait.
Surtout quand on fait un espèce de roulé-boulé comme ça, où on a
voulu le 1 million, bah, une fois que tu l'atteins, c'est-à-dire 1 million, ça veut dire que tu as une équipe derrière, tu as des gens, etc. Et bah, tu te dis, ok, super, on est en décembre, tu pourrais te dire, bon, bah, c'est bon, on a essayé et on retourne au slow entrepreneur, mais ça se passe pas comme ça. Puisque tu as fédéré une équipe avec toi. Donc, il faut continuer sur cette lancée que toi-même, tu ne sens peut-être même plus. Ou même si, parce que nous, on le sentait comme ça. On continue jusqu'à... Nous, c'est vraiment le côté... la santé qui nous a fait dire stop. Il aura fallu attendre, je ne sais pas, 3, 4, 5 flébites pour me dire stop.
Et puis, la perte de sens aussi.
Et la perte de sens.
Parce que
tu disais tout à l'heure, quand tu as des enfants après, tu disais quand tu as des enfants ou pas, mais quand tu... t'es entrepreneur et qu'à la base, notre père, il dit tout le temps ça. Moi, ce que je comprends pas avec vous, c'est que vous êtes entrepreneur à la base pour être, entre guillemets, libre.
Oui.
Liberté que dalle, puisque déjà, vous ne payez pas au début. Au début, on se payait vraiment pas beaucoup. Et notre père a fait, je ne vois pas l'intérêt de se payer aussi peu. Autant retourner, Marisa, dans l'administration publique, tu seras payée pareil. Vous ne profitez jamais de votre moment de liberté. Vous partez jamais en vacances. Vous ne prenez jamais de week-end. Non, le week-end, on fait des lives sur YouTube. Nous, désolé, on n'a pas votre temps. Donc, du coup... C'est ce truc où d'un moment tu te dis, mais quel est l'intérêt? Pourquoi j'atteins 1 million de chiffre d'affaires si de toute manière je n'en profite pas? Je fais que stresser finalement pour les salariés qu'il faut que je paye tous les mois, pour le coup.
Bah, peut-être que vous avez été trop picousée aux Américaines.
Oui. Ça,
et c'est un peu comme dans la vraie vie, à force d'écouter et de se comparer, des fois tu as l'impression que ah oui, mais c'est ça qu'il faut faire, ils disent que c'est ça, il faut. Et non, je pense qu'effectivement, faut revenir. Moi, j'écoute pas beaucoup en fait.
Ouais.
J'écoute très peu d'entrepreneurs, ou alors j'écoute des choses très. pratico-pratique, mais sur le business type le panier,
je crois. Oui, que... ouais, nous, on a écouté, bah, j'ai beaucoup écouté ça à l'époque, mais voilà. Ça me faisait beaucoup culpabiliser. Je me disais, mais ils sont tellement loin et que moi, je suis tellement petite, il faut que j'aille, il faut que je, tu sais, je prenais tous leurs conseils. Ouais. Il faut faire ça pour continuer. À... Et au bout d'un moment, j'ai fait stop, Martin, on arrête d'écouter ça. Ça
me... bah, moi, j'aime bien ça, mais pas personnel. Tu vois, pas, j'écoute pas des entrepreneurs qui disent, voilà, je suis arrivée à ça, aujourd'hui, j'ai ça. Ça, en tout cas, ça ne m'atteint pas. C'est peut-être une chance, mais en tout cas, ça ne m'atteint pas. Et c'est vraiment aussi, c'est un peu... je trouve qu'on ne parle pas du bon sens et des mathématiques, mais en vrai, pour moi, c'est les vrais bons copains de quand tu es en entrepreneuriat. Et quand vous disiez... c'est comme la gestion à la papa. Vous parliez souvent de ça.
En bon père de famille, oui.
Voilà. Bah, pour moi, ça peut tout à fait aussi se caler sur comment tu gères ton entreprise. En fait, c'est... de manière très simple, c'est faire sur une page blanche un listing de ce qui est important pour toi et ce que tu as besoin de mettre en face. Par contre, faut être très pragmatique, quoi. C'est-à-dire que si ton business, tu as envie, de, par exemple, de bosser que 4 jours par semaine, mais qu'en bossant 4 jours par semaine, il faut que tu aies 24 clients et chaque client, ça te prend 3 jours, bah, ça ne rentre pas, quoi. Donc, c'est un mélange entre... ton business et puis ce que tu as envie, et si ça roule comme ça, bah, ça roule, et s'il faut faire des changements, il faut faire des changements, mais pas hésiter à prendre du recul. Et ça aussi, c'est bien quand tu n'as pas trop de clients et que tu n'as pas une charge mentale de ouf, parce que sinon tu ne prends jamais de recul. Mais effectivement, moi par exemple, je n'ai jamais aimé travailler le vendredi après-midi de toute ma carrière, je n'ai jamais aimé ça. Un de mes premiers jobs, je ne travaillais pas le vendredi après-midi parce que c'était sur 35 heures réparties sur 4 jours et demi. Après, je suis rentrée dans une grosse société où je travaillais le vendredi après-midi. J'ai toujours détesté ça. Je sais pas, le vendredi après-midi, c'est un mauvais mood. Et le fait d'avoir commencé en ne travaillant pas le vendredi après-midi, je croyais que c'était génial pour faire plein de trucs hyper chiants et être en week-end, vraiment en week-end. Et ça, quand je me suis mise en indépendance, je me suis dit, ma cache, je reprends mon vendredi après-midi. Et j'ai pas toujours réussi à le tenir, mais par exemple, ça, je sais que c'est un truc un peu immuable chez moi, quoi. Je veux avoir mon vendredi après-midi pour faire tous mes trucs, pour être tranquille le week-end. Et dans la mesure du possible, parce que dans le CM, c'est pas toujours possible, j'aime ne pas du tout travailler le week-end. C'est pas toujours évident parce qu'on sait que le dimanche, par exemple, c'est un bon créneau pour les réseaux sociaux, donc parfois ça m'arrive de travailler, mais. En tout cas, j'ai tout travaillé en amont et ça me prend peu de temps sur mon espace personnel, quoi.
Justement, quelles sont, toi, les valeurs qui étaient... Donc, le vendredi après-midi.
Ouais.
Mais est-ce que tu avais d'autres valeurs qui, pour toi, ça pourrait peut-être...
Parce que pour toi, c'est une valeur, le vendredi après-midi.
Non, mais en tout cas, le repos, le temps de pause.
Oui, d'accord.
Le temps de recul, ouais.
Voilà. Moi, par exemple, c'est une valeur importante pour moi. Il faut... Maintenant après 5 flébites c'était pas le cas il y a encore j'ai compris que oui, moi il me faut un temps aussi, j'aime pas travailler maintenant de 9h à 18h sans pause, alors qu'avant c'est ce qu'on faisait, quoi. Quelles étaient les autres valeurs, ou quelles sont les autres valeurs que pour toi c'est important dans ta sobriété entrepreneuriale qui te permettra de ne pas justement aller plus loin que ce que tu avais décidé dès le départ avec ton propre contrat?
Ben, je sais que c'est un nombre de clients max sur du community management classique. Après, je peux avoir des petites tâches où ça ne va pas me prendre beaucoup d'espace de cerveau. Mais par exemple, je ne vais pas au-delà de 5 clients en community management. Et encore, c'est plutôt 3 très gros et après des plus petits contrats. Mm-hmm. Parce que je sais que sinon, mon cerveau il ne va pas switcher correctement. Moi c'est un peu mon contrat de base, et après sur l'organisation ça va être mon vendredi après-midi, ça j'y tiens beaucoup, avoir une certaine souplesse dans mon agenda, c'est-à-dire que si tout est déjà calé, moi ça m'angoisse de dingue. Pouvoir faire des déj de 2 heures si je vais au resto de temps en temps. Et puis après, je me suis rendu compte d'un truc, ça va paraître très con, mais d'avoir le temps de faire mon ménage. Mais pas dans le côté je suis une femme, je fais le ménage, franchement, j'en suis pas là. Mais juste d'avoir du temps pour m'occuper de ma maison, de mon espace, quoi. Et je me suis dit, le jour où je prends une femme de ménage, mince, ça veut dire que je travaillerai trop. En fait, si je suis plus capable d'assumer ma maison comme je le veux, après, ça dépend. Je dis mon ménage, c'est parce que moi, c'est un temps aussi où c'est pour moi, je suis toute seule, tranquille, et ça me fait du bien, quoi. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est une limite, tu vois. Si j'ai plus le temps de m'occuper de ma maison...
On peut avoir une femme de ménage aussi et avoir le temps. Bon, en même temps, moi, je l'ai pris parce que je n'avais plus le temps, tu as raison. C'est une réalité. Mais aujourd'hui que j'ai le temps, je n'ai pas enlevé l'assistante ménage.
hors de question puisque je n'aime pas faire le ménage. Donc au moins, je me dis, c'est du temps que j'ai pour moi. Et ça, je valide.
Mais il faut s'écouter. Hein. Si toi, pour toi, c'est pas important, c'est pas important. Peut-être que toi, c'est par exemple, par contre, de faire à manger tout le temps chez toi. Et de pas commander. Voilà. Et ça, c'est ta limite. Quoi. Je pense que ça, c'est vraiment propre à chacun. Il y en a, ça va être, par exemple, avoir le temps de faire du sport. Avoir le... Enfin, c'est vraiment très différent. Quoi.
Par contre, ça chouette, ouais, cette idée de contrat de base, je trouve ça hyper intéressant, et ça, je vais le garder, parce que même factuellement, le noter, en effet, comme tu dis, sur un papier, je vais me lancer, ou ça se trouve, vous êtes déjà loin comme nous, hein, ça fait 7 ans qu'on est dedans, mais quand même, parfois,
t'as oublié.
T'es sur une route, et puis d'un coup, t'as pris un virage, et tu dis, non, revenons sur un autre virage, ça va être intéressant de, toujours à des paliers dans ton entreprise, de revenir à se dire, attends, est-ce que mon contrat de base avec moi-même, je l'ai respecté depuis toutes ces années ?
Ce serait même intéressant de réécouter, par exemple, pour nous, notre épisode avec Siam. Voilà, on serait choqués. Hein. Parce qu'on est très très loin du contrat de base, de non, mais nous, on va travailler toutes les deux, on veut juste un salaire qui nous permette d'avoir, payer son loyer, avoir des loisirs, ne pas regarder juste les étiquettes tout le temps de tout ce que tu veux acheter au supermarché, parce que nous, on était là à regarder les étiquettes au supermarché, quoi. Pour finir... Voilà, donc non, c'est hyper intéressant, moi j'adore ce concept.
Mais ça c'est vraiment, c'est comme l'intention de janvier quoi, enfin pour moi, c'est moi je faisais à un moment mes intentions perso et mes intentions pro, de me dire voilà, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai besoin, et ça c'est pareil, c'est des maths quoi, c'est se dire qu'est-ce que j'ai besoin comme rémunération, au-delà de la, après c'est de la gestion d'entreprise, mais ma prévoyance ça me coûte tant, ma mutuelle ça me coûte tant, j'ai envie de mettre tant parce que si mon Mac il me lâche, je vais pouvoir le racheter, de pas être tout le temps ric-rac quoi. Et puis après le plus, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je me le donne en prime, est-ce que, après il y a plein de choses, mais en fait dans se connaître, il y a aussi connaître son business et son seuil de rentabilité quoi. Ça paraît bête, mais je pense qu'il y en a qui le font pas par exemple.
Mais toi, t'as pas le FOMO, toi. T'as pas le côté je vois les autres. En plus, toi, t'es toute la journée sur les réseaux parce que c'est aussi ton métier. T'as pas le FOMO en disant « Ah tiens, si je faisais comme cette personne, je pourrais peut-être avoir 1000 euros de plus. » Toi, ça te fait ni chaud ni froid.
Exemple,
pourquoi tu te dis pas « Non mais attends, moi, je ne suis qu'une vulgaire community manager et je pourrais totalement, vu mes compétences, faire des formations en ligne, des masterclass en ligne et bim bam boum, j'engrange quoi. »
Parce que je me méfie de l'objet qui brille, comme on dit, et que par exemple dans les formations, alors après le fait d'avoir 35 ans et d'avoir un peu de bouteille, c'est horrible de dire ça, mais c'est vrai, je pense que je me rends assez compte de ce qu'il peut y avoir derrière un objet qui brille. Et par exemple une formation, je sais que je vois le travail qu'il y a derrière, et en fait... Le contrat de base, ou en tout cas la promesse de base de dire une fois... En fait, si je prends ce qu'on entend souvent, c'est tu fais une formation, tu travailles une fois pour la formation, tu la mets en vente et puis après, youpla boum, tout est fait, c'est bon. Ouais, mais sauf que derrière, il faut que tu fasses toute la communication et tu as intérêt de le relancer tout le temps. Par rapport au community management, c'est pas du tout récurrent. Et du coup, tout ça, c'est à prendre en compte. Et quand on te dit « Non, ne vends pas ton temps et en fait, tu vas gagner très bien la vie et tu vas switcher, ça va être génial », c'est faux. Parce qu'en fait, tu ne vends pas ton temps sur le temps que tu fais pour la formation, mais le temps que tu fais dans la communication à relancer, à avoir de nouvelles idées, à faire du contenu différent, pour moi, je le mets dans le temps de formation. Et du coup, on n'est pas du tout sur le même truc. Et une des nanas sur les réseaux que j'aime bien et qui est très, je trouve, factuelle là-dessus, c'est JDP Consulting qui s'appelle plus comme ça, qui s'appelle Jessica, je sais plus comment. Et elle, je trouve qu'elle fait de la formation en ligne, elle fait du coaching. Mais par contre, elle est très factuelle sur je fais ça, mais attention, c'est pas un Eldorado parce qu'avant j'ai fait ça. Et je trouve que c'est une que j'apprécie pour ça. Alors que je suis pas très fan de ce genre de concept et tout ça, ou en tout cas, je m'en méfie. Mais du coup, moi, je sais que ça ne me correspond pas, ça.
Mais ça revient tout à fait aussi au membership. Quand le membership est sorti, voilà. Quand il y a eu ce mouvement aux États-Unis de « le membership, ça a changé ta vie » parce que tu as plein de clients d'un coup. Enfin, quand tu as une communauté, en tout cas, tu as pas mal de clients et tu travailles que tu fais genre un live par semaine. Non, mais on y a cru. On est devenu maman. On s'est dit... alors nous, le but, ce n'était pas de travailler une heure par semaine. Mais on se disait, nous, ce sera plus facile. Maintenant qu'on est maman, ça nous dégagera aussi un peu de temps. Mais en fait, le membership, non. Si vous voulez faire un membership, alors je vous donne une annonce. Si vous voulez faire un membership pour ces raisons-là...
Oubliez.
pour gagner du temps, parce que nanana, parce que ça va se faire tout seul. Mais c'est faux, parce que déjà, il faut créer du contenu toujours pour la communauté de la, du membership. Mais en plus de ça, comme tu le dis très bien, bah, c'est énormément de temps à côté,
ouais,
pour vendre,
faire
la promotion de ton membership pour que les gens viennent. Donc en fait, tu passes ton temps à créer du contenu.
En fait, ce qui vraiment marcherait, c'est si tu fais ta formation et tu fais de la... Je pense qu'il y en a qui font ça. Mmh. Et tu fais de la pub. Mmh. Donc, en fait, tu t'en occupes pas, c'est la pub qui vend pour toi. Mmh. Mais je pense que, du coup, le taux de rentabilité, c'est pas du tout le même, puisque tu payes la pub. Mmh. Donc, en fait, et puis dans mon métier ou dans le social media, la date de péremption d'une formation, elle est très courte, quoi, parce que ça bouge tout le temps. Donc, ce que tu vas dire, potentiellement, dans 6 mois, il faut refaire ta formation. Donc, avant que ta formation, elle soit rentable sur 6 mois... Après, il faut que tu repasses tout. Pour moi, c'est pas rentable.
Non, mais je suis d'accord. C'est vrai que vu comme ça, et sur le coup, on ne se rend pas compte ça, que c'est intéressant ce que tu dis là, parce que sur le coup, on se dit, et c'est normal, parce qu'on est tombé aussi dedans, ce sera plus facile. Ça ne veut pas dire qu'on pense qu'on ne travaillera pas, mais ce sera un peu plus facile que, par exemple, le social media. Et c'est vrai que ton métier, il a été quand même bien tabassé par les formateurs. Puisque tout le monde disait, arrêtez de vendre votre temps, il y a autre chose à faire, vous pouvez faire des coachings, des formations, nanana, parce que vendre son temps, c'était devenu limite le métier le plus ringard et le plus merdique du monde, quoi. À un moment donné, on avait vraiment l'impression sur les réseaux que le seul média qui vend son temps est nul.
Mais ça m'a fait penser à un peu tout, parce qu'il y a le social media, en effet, c'est devenu arrêter d'avoir tes 5 pauvres clients là, et tu peux en avoir 100 000, c'est pas intéressant. Et j'ai vu aussi dans le monde du graphisme, j'ai vu beaucoup les graphistes qui à la base avaient 3, 4, 5, 10 clients, qui d'un coup se sont dit, maintenant je ne forme que les graphistes à devenir graphistes en ligne et à trouver leurs clients. En fait, c'est devenu... c'est ça le truc de l'objet qui brille, justement, de maintenant je ne suis plus graphiste avec mes pauvres clients, je parle à tous les graphistes de France et de Navarre, et puis...
Honnêtement, moi, j'ai jamais mis en place de formation, donc j'aimerais bien avoir un témoignage de quelqu'un qui veut être assez transparent sur le truc, pour dire, est-ce que, par exemple, quand vous dites que le membership, au final, vous avez trouvé ses limites, et c'est en ça que JDP Consulting, je la trouve assez bonne là-dessus, c'est qu'elle disait bien les limites des choses, mais moi, j'aimerais bien savoir... Effectivement, une nana qui a fait ça, qui était designer et qui a mis une formation, est-ce que réellement, elle s'y retrouve sur le temps passé versus le CA dégagé, quoi.
Et même, je me demande si elle se retrouve aussi dans la passion du métier. Parce qu'entre un client qui vient te voir en disant, voilà, j'ai un agenda, je voudrais qu'on le crée ensemble, on imagine un truc, etc. Et bon, maintenant, je vais vous dire comment faire pour vendre vos illustrations auprès des gens sur les réseaux sociaux.
C'est plus le même métier.
C'est pas le même métier. C'est exactement comme dans une entreprise, quand on te fait monter et que tu deviens manager.
Oui.
Et après, manager, c'est pas le même métier que ton métier de base. Et parfois, tu t'y retrouves pas. Moi, c'était un peu mon cas. J'ai une équipe, même si elles étaient super et il y a des choses que j'aimais bien. Mais n'empêche que moi, je me suis rendu compte avec cette expérience-là, par exemple, que j'aimais faire. Moi, ce que j'aime, c'est faire. C'est pas faire, c'est pas dire ce qu'il faut faire. Donc, par exemple, la formation, ça me va pas. Parce que j'ai toujours une frustration. J'en fais quelques formations parfois, mais par contre, en one-to-one, en présentiel, mais il faut que j'ai des cas concrets. Et au final, je suis toujours un peu plus frustrée que si je monte mon réel, que j'écris les textes, que je crée mon comité éditorial ou ma calendrier éditorial, que je regarde que ce soit bien. Et voilà. Mais après, ça, c'est des sensibilités aussi. Il y a des gens qui adorent le management, qui adorent ça. Moi, pas trop, quoi.
Est-ce que tu te sens à contre-courant, du coup ?
Non, parce que à contre-courant, il y a quelque chose qui oppose. Et moi, je suis pas trop pour l'opposition. Je suis pour la paix dans le monde. Moi, je suis plutôt pour...
C'est ringard.
Oh là là, 2002, trop de bienveillance. 2003, quoi. Moi, je crois surtout à différents modèles. Mais ce qui m'embêtait, j'avais fait ce poste-là parce que je trouvais que finalement, comme on ne voyait que les gens qui étaient à 10 000 balles par mois, t'as l'impression qu'il n'y a qu'un modèle qui existe. Et non.
On va dire sur les réseaux, c'est soit en effet le modèle, il faut atteindre 1 million... Ou sinon, tu vas directement dans l'extrême, je vis dans une ferme et je traie mes vaches. Parce que c'est ça en ce moment sur les réseaux.
Ouais.
T'as vu ça ou pas ?
Tu vois pas, pas trop.
Les personnes qui vivent dans des farmhouse, toute la truc farmhouse du moment.
Parce que t'es reparti aux États-Unis, t'as droit aux
États-Unis. Moi, je suis trop.
Tu regardes les États-Unis. Tu sais comment ça t'a transformé ?
Oui, non, mais grave. Mais surtout que c'est arrivé en France. Moi, j'en vois aussi des Françaises, je vis dans un. Ou même en Angleterre, etc.
le but, on achète une grande baraque et puis on achète des poules et
ouais, t'as les deux. Cours, quoi.
C'est souvent les extrêmes. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est ce qui marche aussi. Puisque un Reels où tu montres que t'es en train de traire une vache marchera toujours mieux qu'un Reels où tu dis je vais faire une sieste parce que bah, là il est 16h et j'ai fini ma journée et que je suis slow entrepreneuriat, quoi.
C'est sûr.
Ce sera direct, j'aurai moins de vues.
C'est ça. Peut-être.
Donc c'est ce qu'on voit, mais c'est pas la réalité. Parce que je pense que dans la réalité, dans la vraie vie, il y a plus de gens qui ont ton métier que de gens qui vendent des formations en ligne à 100 000 personnes.
Bah, disons que pour moi, c'est plus facile d'être rentable en faisant quelque chose de récurrent comme du community management classique que de faire de la formation. Je pense que c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher tout le temps des nouveaux clients en sachant qu'il y a pléthore d'offres tout le temps. Et j'ai entendu quelqu'un qui disait, et je crois que c'était assez vrai, il disait à partir du moment où il y a des gens qui commencent à vendre le membership ou à vendre la formation, c'est que c'est trop tard. C'est-à-dire, il y a vraiment cette idée de timing, c'est-à-dire que, en fait, c'est qu'eux se sont fait beaucoup de thunes avant en faisant ces modèles-là, et que là, ils arrivent à dire, ah, si, il faut faire ce modèle-là et tout ça. Et en fait, souvent, c'est que c'est un peu trop tard.
Et ben, franchement, c'est tellement vrai parce que ça a été ça pour la boxe, par exemple. La boxe mensuelle, le concept était génial en 2015. Mais une fois qu'on l'a fait, que nous, bah, ça a très bien marché, etc., quand on a dit, par exemple, au revoir, et qu'on voit des personnes dire, bah, on va faire la même chose. En fait, le modèle est déjà fini, il est déjà caduc. Alors le membership, je ne sais pas s'il existe encore ce modèle, mais quand on l'a lancé, il y en avait très peu en France, on n'était pas très nombreux, je pense, à faire ce concept-là. Et entre-temps, on a vu plein de gens, et en fait, nous, on se disait, entre nous, mais je pense qu'elles ne savent pas que ça va être encore plus compliqué. Et d'ailleurs, on allait chercher autrefois avec Marzan en disant, bah, tiens, les personnes qui ont créé juste après nous, qu'est-ce qu'elles sont devenues ? La plupart
ont arrêté.
Et par exemple, le formateur Antoine BM, un grand formateur en France là, qui fait que des formations pour le coup, lui il a dit j'ai pas pu tenir plus de 6 mois le membership. Mais ça on le dit pas, les gens ils le disent pas parce qu'en fait t'es sur le moment, donc tu vas pas dire en fait c'est difficile. C'était une super aventure professionnelle et heureusement qu'on l'a faite parce que c'était hyper intéressant à faire, mais n'empêche personne ne le dit. Et aujourd'hui je pense que c'est un modèle, je suis pas sûre que ce soit un modèle qui soit encore très à part Spotify, mais encore c'est pas un membership parce qu'il y a pas de communauté.
Ouais, moi je pense que c'est intéressant le concept de l'objet qui brille parce que là on parle de membership, on parle de réseaux sociaux, on parle de digital, mais des personnes qui vont nous écouter qui sont pas forcément dans l'entrepreneuriat digital, mais c'est toujours important parce que c'est intéressant parce que dans n'importe quelle, je pense, branche d'entreprise, il y a toujours cet objet brillant quelque part, un entrepreneur qui te fait croire ou qui croit lui-même à sa vérité. Et que nous, on voudrait être un peu, je sais pas, t'as ton boulanger, toi tu veux créer ton pain, tu vois un boulanger, deux boulangers, trois boulangers, il y en a un qui te propose un truc incroyable, en disant avec ça, tu as plein d'argent. Et en fait, toujours, oui, moi je vais vraiment revenir à ça, c'est-à-dire l'objet brillant, attends, c'est sympa là sur le coup, mais est-ce que vraiment, quand tu commences à décortiquer le truc à l'intérieur, est-ce que vraiment c'est rentable, est-ce que c'est vraiment ça me correspond, est-ce que ça correspond à mes valeurs, à qui je suis, à mes envies aussi de travail, donc non, je trouve ça top.
Est-ce que ça fait plaisir à mon ego ? Est-ce que ça va rassurer mes parents ? Ou est-ce que c'est pour moi ?
Oui.
C'est encore un autre truc. Hein,
Ah ouais, non, c'est vrai. Ah tiens, une question. Ça, c'était une personne qui nous avait posé la question. Je ne l'ai pas notée, mais ça me revient là par rapport aux parents. Quelqu'un qui a dit comment... J'espère que tu as la solution, Axel, parce que nous, on n'attend que des solutions ici. comment tu convaincs un conjoint qui n'est pas trop d'accord avec toi avec cette idée de sobriété entrepreneuriale ? C'est des questions que j'adore, moi, évidemment, hein, parce ouais, que vous connaissez mon côté. Et toi, t'es aussi un chouïa féministe aussi.
Ah, je veux dire. Oh, quand même, chouïa.
Un chouïa.
Bah, déjà, si je veux être assez raidos, je vais lui dire, bah, écoute, c'est ma vie professionnelle. Si j'assure côté... si j'amène ma part comme avant, après, je fais ce que je veux dans mon activité. Après... C'est des sujets qui peuvent être des sujets communs, familiaux. C'est plus dans le sens où, par exemple, sur une première année, quand on travaille la rentabilité, on ne l'a pas forcément tout de suite. Et si on n'a pas forcément sécurisé, par exemple, moi, la première année, j'avais le chômage. Mais si tu n'as pas ça, par exemple, et que tu te lances un peu dans le vide, bah, par contre, oui, il faut que ce soit un contrat familial et se dire, bon, ben bah, moi... cette année, je ne vais pas pouvoir assurer ma part. Est-ce que tu es OK avec ça ? Est-ce que, voilà, et puis, on est d'accord avec ça. Mais après, ce serait juste pour le côté, en fait, apport d'argent. sur le fait de convaincre. Elle le disait dans ce sens-là, elle a précisé ou pas?
Je sais pas, parce que tu vois, j'ai lu un livre justement de Marie-Lise Trécourt récemment et j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de similarités avec la vie réelle où parfois c'est l'homme qui estime du coup que t'es pas assez ambitieuse et que donc t'es une bonne à rien. Donc là, c'est plutôt la personne à elle-même.
Ah ouais.
De, tu vois.
Bah ça, je pense que ça dépend du conjoint.
Ouais,
moi,
je pense que ça.
Mien,
voilà.
Il a jamais.
Bah non, bah, moi j'ai la chance d'avoir des conjoints qui ne m'ont jamais parlé comme ça, mais ah potentiellement, non, je jamais. Sais pas si elle l'a dit comme ça.
Non, elle a juste. On a des conjoints qui vont nous dire vous en faites trop, vous en faites trop, est-ce que vous pouvez pas. À un moment donné où on était dans le trop, et ceux qui nous remettent un peu l'épisode en disant non, mais ça va pas du tout avec nos valeurs déjà de base. Mais,
Ouais, et puis je pense qu'il y a une espèce de cercle vertueux où si t'es bien dans ta boîte, t'es slow, donc t'es au bon rythme. En fait, t'es agréable, t'es agréable, c'est un peu réducteur ce que je veux dire, mais t'es bien dans tes baskets, tout va bien.
Ouais, je vois t'es épanouie, quoi. T'es épanouie, tu le reflètes aussi dans ton foyer.
Bah voilà, c'est ça.
C'est ça.
Ouais. Donc, à l'inverse, oui, si t'es ambitieuse, mais que tu cravages comme une ouf. Après, ça peut être encore une fois ce que je disais. J'ai envoyé un message à Marisa en disant je vais parler de slow entrepreneuriat au moment où je le suis le moins. Parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de travail, mais parce que je l'ai choisi. Et je sais que ça ne va pas durer. Et que j'essaye de voir loin. Et que là, c'était une opportunité parce que j'ai un nouveau client qui est super et tout ça. Mais du coup, je sais que ça ne va pas durer. Donc, je l'accepte. Je sais pourquoi je le fais. Mais c'est vrai que sinon, si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, c'est embêtant, quoi.
Mais aussi, je pense que cette personne-là, de toute manière, dans un couple, la communication, c'est la base. Mais voir quel est chez lui, qu'est-ce qu'il a peur. Non, c'est bien. Ce dont il a peur. Qu'est-ce qui fait qu'il a peur? Est-ce que c'est en effet une insécurité financière? Et donc là, il faut voir ensemble. Est-ce que tu peux avoir le chômage avant de tout quitter? Est-ce que voilà, tu as une sécurité? Est-ce que tu as un filet de sécurité? Est-ce que lui, il a peur? Bah, je sais pas. Ça, vraiment, là, il y a plein de possibilités pour lesquelles lui, il a peur. Mais ça se trouve, ça vient de ses propres peurs à lui qui sont propres. Donc, voir avec lui déjà, parce que nous, on ne pourra pas répondre à la question, parce que nous, on ne sait pas tant que ça qui vous êtes dans votre couple. Mais en tout cas, la piste que tu as donnée, je trouve ça intéressant par rapport déjà au... Souvent, en fait, les hommes, souvent, c'est quand même le côté financier, sécurité. Et après, il y a aussi des gens qui ont peur pour nous. Quand on va dire, quand on fait un switch de vie, les gens ont peur juste parce qu'ils ont peur de...
Qu'on se casse la tronche.
Donc là, c'est à nous aussi de peut-être rassurer la personne, de dire non, mais moi, je suis sûre de moi. Bah, c'est sûr que si tu vas voir ton mec en disant j'ai un petit peu peur, mais je sais pas trop, mais est-ce que tu penses que je change de boulot? Lui, tu le mets pas en sécurité non plus. Si tu arrives en disant moi, c'est bon, si c'est hésitant, c'est pas non plus sécuritaire si de base, lui est quelqu'un de peureux.
Après, moi, je dis toujours, quand on se lance, il faut quand même pas se lancer complètement sans filet. Hein. Faut quand même toujours un peu sécuriser ses arrières et pas se mettre en danger, pour être quand même un peu libre d'accepter ce qu'on veut et de pas avoir cette pression permanente. Si t'as vraiment zéro en partant et t'as des charges et tout ça, c'est quand même un gros risque, quoi.
Et concrètement, alors, il y a eu beaucoup de questions sur ça, mais je sais pas, tu me diras ce que t'en penses, parce que c'est difficile, quand t'as un terme comme sobriété entrepreneuriale, de parler d'organisation dans sa journée, parce qu'après, il y a autant d'organisation qu'il y a d'entrepreneurs et de... Mais toi, c'est quoi ton organisation? On va parler à la semaine par exemple, comment tu t'organises, comment tu te dis voilà, moi je vais être sobre de façon entrepreneuriale. Donc tu nous as dit que tu as 3 clients majeurs et potentiellement 2 clients plus petits. Et comment s'organise une journée? Est-ce que tu te réveilles à 6h du matin, miracle morning, et ensuite tu travailles juste pendant 2h par jour, ou est-ce que tu travailles?
Je commence par 3h d'acroyoga, normal.
De journaling.
C'est ça. Alors, pas du tout. Non, j'ai pas une organisation. En fait, pour moi, le slow entrepreneuriat, c'est vraiment pas un truc. Que je gère à la semaine, c'est vraiment plutôt un état d'esprit plutôt que vraiment une organisation qui fait que je m'accorde telle pause et tout ça, à part le vendredi après-midi, on va bien le comprendre, qui est sacré pour moi quasiment. Mais sinon, c'est vraiment c'est plus sur c'est vraiment sur la charge de travail et pas avoir peur du manque. En fait, il y a vraiment un travail sur soi, je trouve, sur le fait de dire non à des clients. Ce qui avait changé aussi, c'était par exemple quand j'ai des demandes entrantes, mais je sens que je suis déjà hyper chargée, juste de proposer oui, j'adorerais travailler avec vous, mais dans 2 mois. Et en fait, d'abord, les clients, des fois, dans la plupart du temps, moi, ils s'en vont pas, sauf s'ils ont vraiment une échéance hyper, hyper précise, mais dans la plupart du temps, ils me disent bah, pas de souci. Et en plus, ça écrème un peu. C'est-à-dire que finalement, je me suis rendu compte que les clients qui sont méga dans l'urgence, qui veulent des réseaux sociaux tout de suite parce qu'ils pensent que ça marche tout de suite. Parce que les réseaux sociaux, on va le rappeler, hein, c'est pas une baguette magique, malgré ce que beaucoup de gens pensent. Et en fait, c'est ce que j'appelle le syndrome du sauveur. Quand les gens arrivent en mode hyper pressé, il faut que ce soit mis tout de suite et tout ça, généralement, ça va pas être des bons clients. Mmh. Donc en fait, aussi leur dire, bah, finalement, je travaille pour vous, mais que dans 2 mois... Et s'ils te disent, ah non, c'est vraiment pas possible, moi j'en ai besoin maintenant, absolument maintenant. Déjà, je sais qu'a priori, ça va pas être un bon client pour moi. Alors que si c'est dans 2 mois et qu'il me dit, bah, pas de souci, de toute façon, bah, je préfère prendre le temps. Et puis expliquer, moi j'explique très simplement et les gens sont plutôt d'accord avec ça. Je dis, bah, moi je préfère ne pas multiplier les clients. J'en ai un certain nombre parce que je veux m'occuper bien d'eux. Quoi. Mmh. Et ça marche très bien. Donc en termes d'organisation à la semaine, franchement, je ne peux vraiment pas donner d'organisation type, à part que je répartis certaines plages dans mon agenda pour travailler sur tel ou tel client. Je travaille sur Notion. Mais après ça, le slow entrepreneuriat ou pas, ça n'a pas de...
Est-ce que tu t'accordes des pauses déjeuner ou est-ce que tu manges devant ton PC?
Non, je mange quasiment jamais devant mon PC, sauf méga coup de bourre. Mmh. Je me fais pas mal de restos à ne pas se cacher le midi. Mais... parce que j'ai aussi des copines qui sont dans le même métier que moi, qui aiment aussi bien manger, les restos et tout ça. Mais non, j'ai franchement, je suis juste assez sérieuse pour travailler. Par contre, je ne travaille pas en dilettante, c'est-à-dire que je travaille quand même sur des grandes plages, quoi. Moi, je travaille en un coup, quoi. Mm. Je ne sais pas si je suis claire, mais...
Oui, non, très bien. Est-ce que tes copines qui sont aussi entrepreneurs, elles partagent ton point de vue? Est-ce que tu leur en parles de ça, d'ailleurs? Et est-ce que ouais. Si oui, elles partagent ton point de vue ou elles sont plutôt dans le doudou ou pas?
Non, on est plutôt raccord en sachant qu'on a différents parcours, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont bien intégré la notion de charge mentale à un moment et qu'on se dit non, ça marchera, qui se sont dit non, ça ne marchera pas, donc elles sont revenues à ce schéma-là. J'ai aussi une amie qui a embauché à un moment et finalement la personne est partie et finalement elle se dit qu'elle est beaucoup mieux comme ça. Et voilà, des fois ça passe un peu par des épisodes un peu douloureux et de la prendre un peu dans la difficulté. Mais non, je pense qu'il y a vraiment une nouvelle génération qui est plutôt dans ce sens-là, quoi.
Et c'est sympa de le dire parce que quand nous, on est sur les réseaux en tant que entrepreneurs, influenceurs, youtubeurs, etc., parfois, on va nous critiquer, nous, sur ce mode de... Alors, je dis nous, j'avoue qu'on nous critique peu sur ce mode de, ouais. Sur ce schéma-là, mais on le voit, tu vois, quand on va regarder les copines youtubeuses qui vont dire entre midi et deux, elles sont allées manger justement au resto et ça a duré jusqu'à 15h et les commentaires, ça va être, mais il y en a qui vont à l'usine, il y en a qui travaillent, ça, c'est pas du vrai travail. Tu sais, parfois, toi, c'est pas toi, c'est pas ta vidéo, mais tu le prends un peu pourtant en disant, c'est pas un vrai travail. Et quand on parle, nous, avec les gens, parce que la plupart des gens qu'on a dans notre vraie vie, ne sont absolument pas influenceurs. Je vous dis, on ne parle quasiment d'ailleurs pas avec...
quasiment, tu connais toi, un influenceur? Moi, je crois
que par exemple, Marion Botanical, avec qui on a mangé,
ah,
etc.
Ah oui, d'accord.
Mais encore, c'est différent. Mais oui, ce serait peut-être la seule. Mais quand on parle avec les personnes autour de nous, par exemple, une amie qui est médecin, mais qui, elle, ne voulait pas entrer dans ce côté « je travaille tout le temps ». Donc, elle a fait le choix de travailler, il me semble, 3 semaines... Non, c'est plus ça maintenant.
Elle ne fait que des remplacements, les médecins généralistes, oui. Donc elle a décidé de ne même pas s'installer. C'est un choix aussi. Donc moi, je trouve ça intéressant d'avoir plein de possibilités. Comme ça, on sort aussi du côté toujours réseaux sociaux.
C'est
mais,
ça.
Elle est médecin généraliste. Elle a décidé, elle, de ne jamais, pour l'instant, en tout cas, de s'installer dans un cabinet. Donc elle ne fait que des remplacements et elle a fait le choix de travailler 2 jours et demi par semaine. Parce qu'elle a passé son contrat aussi avec elle-même, c'est voici moi ce dont j'ai besoin de temps pour vivre, j'ai besoin de mes moments parce qu'elle adore aller randonner en Auvergne, etc. Donc il faut qu'elle sait qu'elle a des plages de mois où elle ne travaille pas du tout. Et donc ça c'est son choix à elle, mais elle aurait pu très bien être médecin généraliste, avoir son cabinet et travailler tous les jours de la semaine, et c'était comme ça. Mais là aussi, elle est slow entrepreneur sans...
Oui, mais complètement.
Elle travaille 2 jours hyper intenses, mais après, en effet, elle adore faire son yoga le matin, enfin... C'est son truc. Et c'est vrai que ça fait du bien d'entendre d'autres discours que le nôtre. Parce que le nôtre, ça va être « Oui, mais vous êtes influenceuse, vous ne faites rien vraiment de vos journées. » En fait, si, on fait des choses, mais il n'y a pas que notre modèle. Je pense qu'on peut décliner le slow entrepreneuriat à d'autres modèles. Je voyais aussi, parce que très souvent, quand on va dire « On veut créer un restaurant, par exemple », les gens, ils vont te dire, ou un restaurant ou un coffee shop, un truc comme ça, oh, « Tu ne te rends pas compte, la restauration, c'est atroce, tu vas te lever tôt. » Mais aujourd'hui, même dans la restauration, t'as des coffee shops, des cafés qui ont changé leur façon de faire. Et c'est plus « je suis ouvert de 8h à 21h, mais c'est parfois, je suis ouvert que 3 fois dans la semaine. Donc, il y a plein de modèles différents. On n'est pas obligé de se calquer toujours au modèle.
Non, et puis souvent, les gens, ils reportent un peu soit ce qu'ils aimeraient avoir dans leur vie, soit voilà, leur peur. Ou... Mais moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est par exemple, les générations un peu plus jeunes ont vraiment ce truc-là de le boulot, c'est le boulot, mais moi, je vais avoir du temps pour le perso. Mm-hmm. Et même moi, au début, des fois, je voyais des stagiaires qui partaient à 17h30. Je me disais, oh, bah, attends, une stagiaire, il s'en va direct. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est simplement parce que moi, j'aurais peut-être voulu le faire et que j'ai jamais osé le faire, quoi. Mmh. Et qu'en fait, je me suis dit, bah non, c'est bien, en fait. Mmh. Et que j'avais juste reporté mes propres peurs ou t'as toujours envie de reproduire ce que toi t'as fait. T'as dit, bah ouais, mais si moi, je finissais à 19h quand j'étais stagiaire, maintenant, les stagiaires, il faut que tu fasses ça. Mmh. Et en fait, non, faut plutôt se réjouir que les choses changent, quoi. Mmh. Et dans ce monde-là, je trouve que c'est bien de se dire, bah, on n'est pas tous obligés de grossir, d'avoir une pression et puis surtout de se rendre compte de ce qu'il y a derrière un chiffre d'affaires ou avoir une entreprise et des employés, ça veut dire que tu as la pression d'assurer le salaire de quelqu'un. Donc, tu as une emprise sur la vie de quelqu'un. C'est pas rien, quoi. Tout le monde ne peut pas l'assurer, quoi. Moi, j'aurais du mal... moi, c'est quelque chose qui me ferait très peur, quoi. De savoir que le salaire de quelqu'un dépend de mon travail. C'est une pression énorme, quoi. Et pareil, sur, quand tu es freelance, par exemple, moi, il y a... Le meilleur chiffre d'affaires que j'ai réussi à faire sur un mois, c'était 9000 euros. J'ai pas atteint
nul
100 balles des 10 000 euros.
Bah, attends les 10 000 et tu pourras faire des formations après.
C'est
la meuf qui a rien compris à l'épisode.
Mais le mois où j'ai fait 9 000 euros, mais j'ai bossé comme une ouf parce que ça se calait pas bien, c'était au début. Et c'était pas au début, c'était l'année dernière, je crois. Et finalement, je me suis dit, mais plus jamais, 9 000 euros. Mais c'est, oh ouais, bah c'est super, je suis contente à la fin du mois, mais merci, j'ai trimé, j'ai attendu la fin du mois toute... tout le mois, quoi. Donc, en fait, c'est pas du tout tenable sur la durée, quoi. Donc, au final, non.
Mais il t'aurait fallu un mois.
Mais est-ce que... qu'est-ce que tu penses? C'est une question qu'on nous a posée sur Instagram. Ouais. Je trouve ça drôle. Enfin, c'est des petites questions qui sont mignonnettes, qui sont faciles à répondre, je pense. Mais du coup, toi, t'es slow entrepreneur.
Ouais.
Qu'est-ce que tu penses de ces gens qui, eux, de ces personnes qui ont envie de créer des empires? Est-ce que ça te chiffonne, ça te chagrine ou chacun fait sa life?
Chacun fait sa life. Franchement, chacun fait sa life. C'est vraiment une histoire de valeurs aussi, de qu'est-ce qu'on a envie pour soi, et puis aussi du moment de sa vie où on est. Moi, je suis persuadée qu'on n'a pas envie des mêmes choses au même moment. Quand j'ai commencé, ça me dérangeait pas du tout de faire du 8h-20h. Quand j'ai lancé le podcast La Grande Aventure, en fait, j'enregistrais le lundi jusqu'à très tard, je montais super tard, mais c'était mon truc, ça me faisait envie... Voilà, je ne l'ai pas subi. En fait, c'est vraiment cette histoire de à quel moment tu subis et tu ne subis pas. Et ce n'est pas, si tu bosses 10 heures par jour, ah bah c'est pas bien. Bah non, si dans ta vie, ça t'épanouit, que ça ne dérange personne et que tu y trouves ton compte, bah vas-y, quoi. Si ça correspond à ta vie, pas de souci. Moi, je n'ai aucun souci sur les gens qui ont envie de monter des empires, quoi. Et c'est bien aussi parce que ça fait des emplois, il n'y a pas un modèle, quoi. Moi, je sais que juste ça ne me correspond pas, quoi.
Mais c'est intéressant de t'entendre dire que oui, en fait, c'est s'écouter. Et j'aime beaucoup le... Ça rappelle, on l'a déjà dit, je crois, c'est une abonnée qui nous avait dit ça. Oui, on peut tout avoir, mais pas en même temps, puisqu'il y a des moments de sa vie. Mais ça, c'est un truc que nous, on a mis du temps à comprendre. Parce qu'on se disait parfois, mais avant, on le faisait très bien, ça. Avant, Marisa était célibataire. Moi, j'avais mon mec, mais en soi, il me laissait libre, vraiment. Parce que lui, il commençait un nouvel emploi aussi. Donc, il était rarement là. Donc, c'était... Ok, on s'amuse, on n'avait pas d'enfants, on avait, mais alors, un temps, et puis ça nous amusait.
Oui.
Et c'est vrai que jusqu'au moment où on l'a subi. Voilà. Mais à ce moment-là, on ne comprenait pas, parce qu'on disait, mais avant, on savait très bien le faire. Oui, mais ta vie, elle a changé, parce que c'est un choix de vie, en plus. C'est
nous qui avons besoin. Tes besoins ont changé, ta vie a changé. Et par exemple, un ancien responsable a dit une fois à mon mec, ça m'avait un peu, ça m'a fait un déclic aussi, il lui avait dit, mais sur le ton du reproche, toi, ta vie professionnelle, c'est ta variable d'ajustement. Un peu en mode, toi, ton boulot, parce que parfois, il partait un peu plus tôt pour aller emmener ma fille, par exemple, chez le médecin et tout ça. Il lui a dit, toi, ton boulot, c'est ta variable d'ajustement, sous le ton d'un reproche. Mm-hmm. Et en fait, je me suis dit, mais heureusement, en fait, que ton boulot, c'est ta variable d'ajustement. Le jour où c'est l'inverse, c'est ça le problème. Mm-hmm. Si ta vie pro, elle s'ajuste à ton boulot, alors je sais qu'en salariat, c'est très compliqué, parce que... En salariat, tu choisis moins. Mais en indépendant, si ta vie perso s'adapte à ta vie pro et c'est pas l'inverse, bah pour moi, il y a un souci. En tout cas, moi, c'est pas ce dont j'ai envie, quoi. Moi, j'ai envie que ma vie pro, elle s'adapte à ma vie perso, quoi.
Mmh. Ah, mais moi, je l'ai pas compris. Enfin, si, à la base, quand on devient entrepreneur, c'est... on rêve tous de ça. On rêve tous de dire que ma vie pro, elle passera, c'est, elle va m'épanouir. C'est, une, c'est un choix que j'ai fait, donc ça va m'épanouir. Ça passe, ça me permet d'avoir du temps libre, pas au détriment de ma vie perso. Et ensuite, nous, on est, bon, vous l'avez compris, mais on s'est engouffré dedans. Mais maintenant, c'est là où on revient aussi se dire, notre boulot, c'est pas notre vie. En fait, parce qu'après, nous, on est devenus les entrepreneurs où on a calqué notre vie, notre personnalité, c'est notre boulot. Donc, sans ce boulot-là, qui je suis?
Oui.
Et ça, c'est l'erreur aussi de beaucoup qu'on rencontre énormément dans l'entrepreneuriat, mais surtout sur les réseaux sociaux, on le voit beaucoup auprès de nos collègues influenceurs et tout. Ils savent même plus, eux, qui sont en dehors de leur travail. Et là, ça devient compliqué.
Bah, surtout que vous, vous incarnez votre travail. Oui. C'est encore plus... La limite, elle est ténue, quoi.
Ouais. Mais ça reste dangereux. C'est-à-dire que même si on incarne notre travail, aujourd'hui, c'est pour ça qu'avant, on faisait beaucoup de stories où on parlait énormément, on faisait des lives très souvent. Aujourd'hui, on se dit, non, mais en fait, au bout d'un moment, stop, on peut pas... donner tout le temps notre personnalité pour notre travail, parce qu'après, au bout d'un moment, tu sais même plus qui tu es. Parce que moi, sans mon travail, après, je me dis, mais en fait, je vaux quoi?
Qu'est-ce que j'aime?
Qu'est-ce que je sais faire? Je sais plus. Donc, non, c'est pas facile, mais je trouve que toi, tu l'as très bien. Parce que t'es bien dans tes baskets déjà, tu vois, je crois que t'es solide, t'es sur tes deux pieds, quoi. T'as été bien éduquée, toi, non? Parle-nous un peu de ta famille.
Bah, parents prof, hein, parents incite, je sais pas. Je sais pas, je pense que apprendre de soi, c'est hyper important. Ouais.
Mais non, je veux dire que aussi, tu n'as pas. Ce que nous, je pense qu'on a eu aussi, ce côté où on courait aussi derrière une certaine reconnaissance. Je veux dire, quand tu es sur les réseaux sociaux et que tu montres, même si tu as un partage intéressant, il n'empêche que tu recherches.
La validation.
La validation, l'adoubement de quelque chose ou de quelqu'un.
Toi, tu t'adoubes facilement toute seule. Tu te valides.
Pas forcément, mais pas... En fait...
T'as pas besoin de reconnaissance de ta maman et ton papa.
Non, ça va peut-être être mal interprété ce que je vais dire, mais c'est-à-dire que c'est les gens que j'aime et que je connais dont la vie m'importe, quoi. Et par exemple, moi, j'aurais jamais pu être influenceuse, quoi. Parce que moi, d'avoir quelqu'un que je connais pas qui me dit « tu fais de la merde » ou « ce que tu fais, c'est bien », bah, si je le connais pas et qu'il a pas d'estime pour moi, ça va pas avoir beaucoup de poids.
Donc je pense qu'en fait, beaucoup d'influenceurs ont des problèmes avec papa-maman. allons rechercher de ce côté-là. Je pense que beaucoup, vous avez des problèmes avec papa-maman, vous avez besoin d'être validé, parce que vous n'avez peut-être pas été assez validé quand vous étiez petit. Mais nous, je pense que c'est vraiment ce côté-là qu'on avait. C'est, on n'a tellement pas été validé quand on était enfant, mais aussi du coup, à l'école, etc., on était vraiment les deux nanas, pas du tout dans la coulitude, on était vraiment les meufs... Les has-beens, déjà, à peine arrivés dans la vie, on était déjà has-beens,
tu vois. On était les filles Aldi.
On était les filles Action, tu sais. Donc, du coup, c'est vrai que quand on est arrivé sur les réseaux, on s'est dit, ah, mais finalement, on nous valide. Il y a un endroit sur Terre où on nous a validé un jour.
Mais sans se le dire, c'est inconscient. C'est maintenant qu'on en est sorti aussi.
Ouais.
Ou maintenant, c'est drôle parce que maintenant, quand je vais lire les commentaires, même si c'est des commentaires négatifs, ça ne m'atteint même plus. Alors qu'il y a encore un an, on aurait re-switché tout de suite. Le commentaire est négatif, on supprime l'entreprise qu'on avait dans la tête et on réajuste encore et encore et éternellement, en fait.
Mais après, le fait d'avoir, par exemple, que 5 clients, ça veut dire aussi tu es jugé que par 5 personnes.
Oui.
Contrairement à être jugé par 150 000 personnes et 150 000 personnes, bah, tu en as forcément dans le lot qui ne sont pas contentes. Oui. Quoi. Donc ça change aussi quand même pas mal la donne. Et après... moi, j'ai toujours été dans la moyenne. Hein. Moi, je fais très l'éloge de la moyenne. C'est-à-dire que j'ai jamais voulu être dans la lumière, par exemple. C'est pas quelque chose qui m'attire d'être hyper connue. Moi, ça m'effraie, quoi. Une meuf comme Léna Situation, par exemple, je trouve.
Ah, mais nous aussi. Hein.
J'adore ce qu'elle fait. Hein. Je trouve ça formidable. Mais moi, je pourrais pas être quelqu'un de connu, par exemple. Quelqu'un de connu, moi, ça m'angoisserait terriblement. Et j'ai pas cette cette recherche de briller à tout prix, comme évidemment, par contre, je veux bien faire mon travail et tout ça, ça m'importe beaucoup. Mais oui, je recherche pas la fame, quoi. C'est vraiment pas du tout mon truc, quoi. Et surtout, un peu comme faire attention à ce qu'il y a derrière les choses, bah, la fame, c'est aussi beaucoup de points négatifs, quoi. Et moi, ça me correspond pas, quoi. Donc, non.
Et pour revenir sur le côté... on a peut-être abordé tout à l'heure, mais assez légèrement, c'est est-ce que tu ressens une pression financière? Est-ce que le fait... Parce que, voilà, est-ce que le slow, la sobriété entrepreneuriale, ça veut dire aussi sobriété, slow entrepreneuriat, slow développement, slow...
comment toi tu le vois et est-ce que tu as peur de l'argent?
Alors non, pour moi le slow c'est pas gagner des clopinettes comme je disais tout à l'heure. Pour moi le slow il est entre la rentabilité et l'hypercroissance, c'est au milieu quoi. C'est-à-dire tu gagnes ta vie correctement mais juste tu gagnes pas 10 000 euros par mois quoi, point. Mais du coup, j'ai pas de pression dans le sens où, par chance, je pense que j'ai fait les choses dans le bon ordre et que j'ai eu aussi un peu de chance. Et voilà. Le fait d'avoir bien sécurisé la première année, c'est vraiment ce que je recommande à fond. Et le fait d'avoir une trésorerie quand même solide, ça c'est cool. Et d'avoir un peu plus le choix quand même. Et du coup, bah, non, j'ai pas cette pression par rapport à ça. Et le fait que... à partir du moment où j'ai arrêté avec des clients ou des clients ont arrêté, j'ai toujours eu un autre client après, alors que j'ai jamais prospecté. Donc ça, c'est un peu de chance, un peu de... Je pense que quand tu travailles pas trop mal et que ça se passe bien, il y a du bouche à oreille aussi. Voilà, je pense que c'est un peu de ça. Donc du coup, là, l'année dernière, par exemple, j'ai arrêté avec un gros client. C'était une pression, j'ai mis du temps à le faire. Je ne dis pas que c'est toujours facile de faire du slow entrepreneuriat, que tu n'as pas toujours cette peur qui revient, effectivement, cette pression de temps en temps. Mais il faut réussir à se réguler soi-même. Et finalement, bah, j'ai dit non à ce client-là. Puis après, bah, je me refaisais, tous les jours, je me refaisais des calculs. Je me dis, bon, alors, maintenant que j'ai plus ce client-là, combien j'ai touché ? Bon, bah, c'est pas beaucoup, mais c'est moins qu'avant, mais ça va, quoi. En sachant que c'était moins qu'avant... Mais ça restait rentable. Voilà. Mais j'avais besoin de faire ces calculs pour me rassurer. Quoi. Et pendant 3 semaines, je me suis dit, ça va être une autre période, tout ça. Puis en fait, au bout de 3 semaines, il y a un autre client qui est arrivé, c'était super, et voilà. Mais c'est vrai que tu as toujours un peu cette piqûre de rappel, mais si tu as une trésorerie solide, bah, c'est fait pour ça, en fait.
Et comment... Parce qu'on parle beaucoup, nous aussi, Doraemon, on parle beaucoup de notre trésorerie. Enfin, beaucoup, j'abuse, mais on en a quand même parlé régulièrement. Comment on construit une trésorerie? C'est quoi une trésorerie? Comment tu la construis, toi?
Eh bah, bien, alors ça, c'était une de mes grosses questions quand je me suis lancée. Pour moi, je m'étais dit combien il faut que j'ai en trésorerie pour que ce soit viable, quoi. Moi, j'avais construit 1 an de salaire en trésorerie. Je m'étais dit, bon, une fois que j'ai atteint mes 1 an de salaire en trésorerie, ça va, j'ai un peu de quoi voir venir, en sachant que moi, je suis auto-entrepreneur. Donc, tout ce qui est charge et tout ça, c'est sur mon CA. Donc, si je n'avais pas de CA, je paye aussi moins de charges. Contrairement à si tu payes des salaires, voilà, tu reçois tout ça. Au final, là, j'ai été voir il n'y a pas longtemps un comptable qui m'a dit, mais non, en fait, vu que j'ai pas beaucoup de charges, moi, dans mon activité, parce que je vends mon temps, donc je n'achète rien et tout ça.
Beurre, vend son temps.
j'ai juste des charges liées à mon espace de coworking et puis de la prévoyance et tout ça. Il m'a dit, mais franchement, toi, en trésor, t'as pas besoin de beaucoup, t'as besoin de 4 mois, quoi, à peu près. Mais mon petit cœur me laisse quand même 1 an de salaire, comme ça, je suis sûre. Mais comment on construit? C'est en étant très, comme vous disiez, de la gestion à la papa, c'est-à-dire la première année. Moi, je n'ai pas été en espace de coworking. Le matériel que j'ai acheté, c'est soit du matériel que j'avais, soit de la seconde main. J'ai toujours pris des trucs en abonnement mensuel et pas annuel pour réduire les coûts. Et puis, si j'avais besoin d'arrêter parce que j'avais plus de clients, ben, j'aurais pu arrêter. Première année, tu sers la vis, quoi, et puis après, bah, tu desserres si ça va bien. Voilà, mais c'est...
Oui, toi, Isadora, comment t'as construit ta trésorerie? Parce que toi, c'est ton banquier qui dit tout le temps que tu gères le compte en banque de l'entreprise comme un bon père de famille. Ben, il n'a pas dit comme bonne mère de famille parce que ça ne se dit pas.
Non.
C'est dans le droit, hein, je crois, le bon père
oui,
de famille.
C'est un terme très...
de droit civil. Hein.
Très classique. en fait... Un peu comme toi, mais en ayant aussi le fait que nous avions le chômage. Ça, c'est hyper important aussi de le dire,
oui,
parce que
aussi, hein.
Voilà, c'est ce qui permet la trésorerie, parce qu'on a de l'argent de l'État qui nous aide tous les mois à payer notre loyer, à payer nos charges, etc. Mais à côté de ça, on travaille. Donc tout l'argent qui rentre de ce travail, moi, je l'utilisais directement dans le compte bancaire sans l'utiliser, puisque j'avais pendant 2 ans l'argent de l'État. Si je n'avais pas eu ça, si j'étais partie par exemple en démissionnant, ce serait beaucoup plus compliqué pour moi de faire une trésorerie, puisque dans tous les cas, il faudrait que l'argent que j'ai gagné parte directement dans mon, par exemple, je sais pas moi, dans mon loyer, etc. Mais c'est possible. Ça veut dire faire moins de dépenses, peut-être ne pas trop dépenser pour son job, mais encore tout dépend. Si tu prends un crédit, si tu prends, il y a, on peut prendre aussi des crédits pour avoir une trésorerie. Il y en a qui utilisent, si c'est par exemple, je sais pas, tu vas être agriculteur, il te faut je ne sais combien de bêtes. Bon, bah, t'auras un crédit. Mais nous, c'est vrai qu'on avait cette chance d'avoir, mais comme beaucoup, hein, je veux dire, en France, on n'est pas les seuls à avoir eu le chômage quand on arrête son emploi. Donc, constituer une trésorerie, logiquement, c'est facile, sauf pour les personnes qui, on en a connu, hein, qui directement, ils ont le chômage, oui, mais il y a l'argent quand même qui rentre sur le compte. Et c'est beau, cet argent qui rentre sur le compte. Et tu te dis, peut-être qu'une montre, ça irait bien
non,
avec.
Mais c'est aussi beaucoup de gens qui vont directement employer, embaucher.
On peut aussi.
Dès qu'ils ont un petit peu de trésorerie, ils embauchent directement. Et bah, ce qui est bien, hein, soit une personne, ça fonctionne très bien comme ça et c'est top. Ou des gens qui. Mais nous, on en a vu énormément, Isadora, souviens-toi, dans notre plateforme logistique, des jeunes entrepreneurs qui, eux, direct, ils embauchent, direct, ils prennent un local, direct. Et t'es là pour dire, attends, est-ce que ton truc, il est stable? Est-ce que tout va bien? Est-ce que.
Donc, la plateforme logistique, c'était beaucoup. La plateforme logistique, c'est vrai que ça nous faisait sourire quand on allait à la plateforme logistique. Et qui nous disait, bon voilà, on a des nouveaux. Mais attends, ça, j'ai vu le truc qui est sorti il n'y a même pas un mois. Oui, mais ils ont directement voulu prendre une plateforme logistique. Et généralement, bah, quand on y va quelques temps plus tard, ils nous disent, bah, en fait, ça a fermé, ça, c'est terminé.
Pour expliquer, c'est juste pour dire que.
Parce que, c'est que ça coûte de la, c'est un coût.
Oui, parce que la plateforme logistique, c'est un endroit que l'on paye pour que les gens nous fassent les colis pour nous. Donc nous, ça veut dire que. Pendant des années, Isadora et moi, on a fait les colis nous-mêmes de Snackies. On les faisait nous-mêmes, c'était hyper chiant, oui, mais ça fait partie du business. On n'a pas fait le choix tout de suite, on a mis beaucoup de temps. Tu as eu beaucoup de mal, toi.
Quand je suis tombée enceinte.
Quand tu es tombée enceute.
C'est vraiment ça qui a été.
On est arrivé à faire 2000 box par mois et on s'est dit, là, en fait, il faut passer à une plateforme logistique. Que là où certains de nos collègues qui aujourd'hui ont fermé, vous ne les retrouverez plus jamais, mais eux, dès qu'ils ont lancé leur box, direct plateforme logistique. Donc là, la trésorerie est difficile à se faire.
Et bah, la sobriété, c'est aussi ça. Il y avait une des questions, c'était est-ce que ça croît plus lentement? Oui. Enfin, il n'y a pas de, solution magique. Par contre, je crois que c'est plus périn. C'est plus solide dans la durée, quoi. Donc, et oui, quelqu'un qui se lance, ben non, il ne faut pas forcément employer. Il faut avoir le moins de charges qu'on peut évacuer facilement. Et aussi, un des conseils que je donne souvent, c'est de ne pas calquer son mode de vie sur son revenu, c'est-à-dire sur son chiffre d'affaires. C'est-à-dire que le fameux mois où j'ai gagné 9000 euros, je ne me suis pas payé un copec de plus que d'habitude. Juste l'excédent, je l'ai mis dans ma trésorerie. Et c'est ça aussi qui crée une trésorerie. Et je trouve que le risque aussi, c'est de, à partir du moment où tu as de plus en plus de chiffre d'affaires, tu te payes de plus en plus. Et finalement, après, tu calques ton mode de vie sur ça. Et après, tu ne peux pas faire retour en arrière. Et du coup, là, la pression, elle est là parce que tu dis, bah oui, mais vu que mes charges ont augmenté, bah là, je ne peux pas, même si ce client, il ne me correspond plus, j'en veux plus, je ne peux pas lui dire non parce qu'en fait, j'ai besoin de lui, quoi. Et ça, le salariat, c'est pareil. Hein. Le salariat, c'est-à-dire que rester trop longtemps dans une boîte aujourd'hui, monter les échelons, jusqu'à arriver à un point où en fait on a un très gros salaire, on sait qu'on ne pourra pas retrouver facilement ailleurs, c'est aussi prendre le risque de s'encrouter dans une entreprise parce qu'on ne peut plus la quitter, quoi. Même si finalement on ne s'y sent plus très bien, quoi. Et ça, je trouve que c'est un des risques.
D'ailleurs, Antoine Bem, il avait partagé une chaîne YouTube d'un jeune YouTuber américain et je trouve ça trop bien parce que nous, on l'avait partagé. C'était un épisode qui s'appelle « Comment on a baissé notre niveau de vie, comment on le vit ?» Et en fait, moi, je ne connaissais pas ce jeune Américain, mais qui avait fait cette vidéo déjà il y a un an, qui, lui, c'est un Américain qui avait cartonné à l'époque où YouTube, c'était devenu des restas, etc. Il avait vraiment fait une vidéo dans toute sa vulnérabilité. Si je le retrouve, je mettrai dans les notes de l'épisode, où il disait « Voilà, je gagnais 6 figures, donc je gagnais 6 chiffres par mois, et aujourd'hui je suis broke, j'ai plus un sou, je suis. Voilà. » Et il me disait, il a partagé toute cette vie au début, donc j'avais 16 ans, j'ai commencé à gagner tellement d'argent, et après il a dit, j'ai roulé dans des voitures de malade, une maison mais monstrueuse, et il fait au bout d'un moment, quand il a décidé d'arrêter, parce qu'en fait lui disait, moi j'étais un youtubeur à midinette, j'étais un youtubeur qui devait plaire aux filles pour faire des vues. Quand il s'est rendu compte à 18, 19, 20 piges, qu'il disait, mais en fait, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie que mon business soit juste. Quand j'avais 12 ans, c'était mignon. À 19 piges, en fait, je commence à en avoir marre. Il a voulu créer un truc qui lui ressemble, donc de faire des voyages. Donc, il a commencé lentement à switcher sa chaîne vers les voyages, mais Covid. Donc, Covid plus voyage, chaîne qui rame.
Et du coup, il disait, voilà, moi, aujourd'hui... Bon, maintenant, ça reprend un petit peu, mais sa chaîne ne sera plus jamais comme elle a été parce qu'il disait, maintenant, je fais plus du tout les mêmes vues qu'avant. Donc, j'ai plus autant les mêmes sponsors, j'ai plus la même vie. Donc, il dit, aujourd'hui, j'ai vraiment... zéro copec, il fait vraiment, aujourd'hui je vis vraiment pas avec grand chose. Il fait du couchsurfing à droite à gauche dans les pays qui vident parce que bah, il a pas trop de sous. Et ça qui est intéressant, c'est ce truc de oui, en effet, nous c'est ce qu'on a fait aussi, hein, d'avoir pas à son niveau, on n'a pas du tout été à son niveau, mais c'est vrai que quand tu gagnes un certain salaire, bah tu vis avec ce certain salaire là parce que tu te dis jamais que ça peut changer. En fait, sur le moment, tu te dis pas que les choses peuvent changer, mais la vie n'est pas... c'est immuable ou ça n'est pas...
Un bon fleuve tranquille.
Je ne sais pas, c'est immuable, je ne sais jamais lequel mot. C'est pas immuable ou c'est immuable?
C'est immuable. Ce n'est pas immuable.
Oui. Ça, immuable, c'est que ça bouge pas.
Oui.
Immuable, voilà, c'est que ça bouge. J'adore utiliser des mots pompeux que je ne sais pas utiliser. Utilisons des mots pompeux qu'on ne sait pas utiliser. La vie, c'est pas immuable. Donc, en effet, moi, aujourd'hui, on en parlait avec Zadora. Aujourd'hui, on en reparlera dans notre bilan des 6 mois de fermeture, mais on pourrait se payer plus désormais. Mais direct, Isidore et moi, on s'est dit, ah non, maintenant, stop, ça, cette truc-là, ça, stop maintenant. On va continuer à faire comme on avait parlé ensemble il y a quelques mois, mais dire, ah oui, mais combien, nous, il nous faut dans notre vie pour vivre confortablement, mettre de côté si on a envie, mettre de côté, etc. Et on reste dessus. Plutôt que tout de suite de dire, ah, il y a de grosses rentrées d'argent, viens, des grosses primes, des gros trucs, et puis...
Moi, j'ai fait un truc qui va peut-être paraître un peu ringard. Je n'ai pas investi dans de la crypto.
Ou la NFT.
Parce que j'y connais rien. Ouais. Par contre, effectivement, j'avais une trésor qui était assez importante et trop par rapport à mon activité. Et du coup, j'ai vraiment été voir un conseiller en patrimoine pour dire... parce que moi, personnellement, dans ma famille, on n'a pas plein de thunes et des conseillers en patrimoine en veux-tu en voilà. Donc moi, je sentais bien que j'avais une trésor un peu trop importante. J'ai pas non plus 1 million d'euros. Hein. Et j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et du coup, on a plutôt fait un plan d'investissement, mais sur des choses très factuelles, quoi. De l'immobilier, des trucs... ça paraît énorme quand je dis ça, mais c'est des petits investissements. Oui. Mais c'est des investissements concrets. Oui. C'est pas m'acheter une bagnole ou partir en voyage, quoi.
Ce que j'ai fait, bien sûr, évidemment, la bagnole dans laquelle je roule, je l'ai achetée cash grâce à l'argent que je gagnais.
Parce que t'en avais besoin.
Je n'en avais pas besoin. Non, je dis ça vraiment pas pour rire, parce que ce que tu dis ça, c'est parce que nous, notre père nous a dit pendant toutes ces années, les filles, l'investissement immobilier, notamment, il nous en a parlé, mais pendant tout le temps, en disant, vous arrivez à la fin de l'année, vous avez beaucoup trop de trésorerie sur ce compte, voilà. Il faut en faire quelque chose. Qu'en avons-nous fait? Gros blanc, parce qu'il n'y a plus rien qui se passe, parce que nous, à un moment donné, on a fait le choix de se faire des grosses primes, donc acheter une voiture, etc. Mais aujourd'hui, j'ai les droits, mais c'est tellement... C'est pas dommage, que je regrette pas ce qu'on a fait, parce que c'est la vie, on a fait des choix, il fallait qu'on... Je pense que Edouard et moi, on n'est pas comme toi aussi assurés, on avait besoin de nous, de tout, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme nous aussi, d'avoir besoin de se prouver des choses et surtout de se prendre un mur pour dire ah non en fait je reviens à la moi qui savait déjà de base mais qui s'est un peu écartée du droit chemin.
Et c'est pas comme si elle a fait ça pendant 20 ans, tu vois.
Sur une histoire d'une vie, cette période de vie là n'a duré que 5 ans. Quand on le raconte, parce que oui ça fait 8 ans, mais en soi les 3 premières années je les compte même pas. Je gagnais pas un sou à part le chômage. Donc bon, finalement c'est que 5 ans de prise de... où on a tenté des choses qui finalement n'étaient pas collées à nos valeurs. Donc sur l'histoire de la vie.
Oui, non, c'est sûr.
L'histoire de la vie. Parce que je trouve ça intéressant ce que Axel disait par rapport au fait de ne pas vivre au-dessus de ses moyens, même quand tes moyens, même quand ton entreprise te permet d'avoir ces moyens-là. Oui, tu vois ce que je veux dire? C'est toujours ça le danger. Parce que là, on en reparle aussi, mais on avait invité aussi Sandria à venir sur notre podcast. Peut-être qu'à l'occasion, on aura l'occasion d'enregistrer, parce qu'elle en a beaucoup parlé aussi sur son... Je sais pas si tu la connais, Sandria, c'est une youtubeuse française qui vit aux États-Unis.
Oui, ouais. Si, oui.
Qui en a beaucoup parlé justement de dire, j'ai tellement gagné ma vie que j'ai acheté une belle baraque que je voulais ma baraque de rêve, je l'ai eue.
Toutes les fringues,
nanana. Mais au bout d'un moment, en fait, mon niveau de vie est tellement haut. Aujourd'hui, je gagne moins ma vie. Que fais-je? Je vends. Tu vois, je vends la maison. Je dois tout réadapter parce qu'elle est partie plus haut que nous. Parce que nous, on a fait des... Bon, on n'est quand même pas allé dans des grosses villas, voilà. Même si, Dora, tu as une piscine, je trouve ça abusé. voilà. Mais quand tu arrives à des niveaux où tu roules en Ferrari, en truc, nanana, ça devient dur, notamment quand... Tu as ce décalage comme elle est là, ou ce jeune américain qui n'était plus dans leurs valeurs de l'entreprise. Parce qu'en soi, si toi, tu veux continuer à gagner toute ta vie et vivre en Lamborghini, etc., c'est ton choix. Je pense que tu trouveras toujours le moyen de vivre, de rouler en Lamborghini. C'est là où, quand il y a tes valeurs entrepreneuriales ne sont plus collées avec le travail que tu fais au quotidien. Et que là, ça devient compliqué de repartir en arrière, en fait.
Après, moi, je sais pas, j'ai jamais voulu flamber parce que je sais pas pourquoi, ça c'est un truc perso, mais moi, l'argent que je gagnais avec mon entreprise, j'ai jamais pensé qu'il était à moi. C'est bête, hein, mais pour moi, il y avait vraiment deux trucs séparés. C'est ce que je me touchais, que je pouvais vraiment dépenser, mais ça, c'est un peu, je pense... ce que tu gardes du salariat, quoi. Ça, c'est un fonctionnement très salarial, quoi. C'est vraiment... moi, j'ai mon salaire, mais par exemple, j'ai jamais payé vraiment un truc avec l'argent de mon entreprise, hors me verser mon salaire, quoi.
Oui, mais tout à fait. Sinon, ce serait pas... Tout dépend, mais ce serait pas très légal pour tout. Mais tu pourrais te dire... Ben, j'augmente...
Ah oui, pardon, parce que moi, je suis très... ça, c'est 8 ans de SAS.
Non,
mais ce que je veux dire, c'est que tu pourrais t'augmenter.
Oui, je pourrais. Mais en fait, d'abord, je me suis rendu compte que la rémunération que je me donnais, ça me suffisait pour avoir ce dont j'ai besoin, plus un petit bonus de confort, quoi, et que j'ai pas vraiment besoin de plus. Donc, non, je préfère mettre de côté et me dire, tiens, je l'investirais sur un truc un peu plus, plus costaud, quoi.
Très bien. Non, franchement, gens, ouais. Moi, je suis très admirative.
Mais après, ça paraît très facile, mais en vrai, je me suis pris des murs, je me suis posé des questions. Je trouve que la clé, c'est vraiment de se laisser du temps, de prendre du recul, quoi.
Et je pense que la clé de tout ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est quand même, on va redire ce terme-là, qui a été redit par Karine, même dans l'alimentation, c'est le bon sens. C'est de faire, d'utiliser son bon sens à soi et pas celui de l'autre. Si on peut vous aider, si on peut vous éviter, pardon, de tomber comme nous dans tellement on regarde de trucs sur les réseaux qu'on veut limite avoir la même vie et du coup, on s'éloigne de ses valeurs. Toi, finalement, t'as gardé ton bon sens de « moi, mes valeurs, c'est ça ». Je ne veux pas ressembler à ci, ça, etc. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et c'est exactement comme l'alimentation. Qu'est-ce qui est bon pour moi et pas ce qui est bon pour les autres? Et j'avoue, bon, on a le même âge, j'allais dire. J'avoue que j'aurais aimé à savoir ça quand j'étais un peu plus jeune. 5 ans en arrière, j'aurais aimé. Mais je ne regrette absolument de toute façon rien de ce parcours. Mais,
Après, oui, vraiment partir de soi. Après, je pense que l'entourage aussi a un grand rôle. Moi, dans mes amis, personne... Enfin, il y en a beaucoup qui ont des métiers très terre-à-terre, infirmiers, éducateurs spécialisés. C'est des métiers qui n'ont rien à voir avec ça. Et personne ne flambe autour de moi. On a plein de thunes à ne pas savoir qu'en faire. Et ça aide aussi, je pense. Mais effectivement, ouais, partir de soi, ça, c'est vraiment hyper important. Et des fois, les gens ne savent pas ce qui est important pour eux. Parce qu'à force de regarder les autres... Tu dis, ouais, mais finalement, moi, ça me rendrait heureux aussi. Mmh. Toi, je prends toujours l'exemple du digital nomade. Mmh. T'as l'impression que partir faire tout le temps des pays, c'est cool, tu vois des trucs, c'est super. Ouais, bah, dans la réalité, ça, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, je sais que je détesterais ça. Moi, oh, j'aime bien.
J'ai qu'à venir pour ça. Bon.
J'aime bien avoir ma maison, mes petites habitudes, savoir où est rangé ça, savoir. Bon, voilà. Un truc un peu chiant au demeurant, mais c'est comme ça, c'est ça que j'aime bien. Et moi, faire tous les aéroports et tout ça, ce serait pas trop mon truc, quoi. Et mais je trouve ça super qu'il y en a qui se retrouvent là-dedans, mais moi, c'est juste pas fait pour moi, quoi. Et c'est pas parce que c'est pas instagrammable que c'est pas cool, quoi.
Voilà. Nouveau mouvement.
Voilà. Mais c'est vrai que ta vie n'est pas instagrammable, du coup.
Mais non.
T'auras pas beaucoup de likes. Hein.
Même si ce chemisier est instagrammable, pour le coup.
On est d'accord.
Celui-là,
on est
d'accord. Oui.
Non, mais il y a plein de moments où moi, je partage pas beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, parce que, voilà, c'est pas mon truc, mais...
Mais tu sais que, globalement, la majorité des choses qui sont instagrammables sur les réseaux sociaux ne sont pas en vrai instagrammables. C'est à coup de filtre, à coup de musique par-dessus, c'est à coup de tout ça que tout devient instagrammable. Mais en soi, qu'est-ce qui est instagrammable? Est-ce que c'est instagrammable de faire une photo avec ton enfant qui, ça se trouve, de minutes avant, ne voulait pas du tout être avec toi sur la photo, que derrière, c'est mais dégueulasse chez toi, que c'est pas propre, que ton enfant, il a bouffé peut-être que de la merde toute la journée, mais toi, t'as fait la photo, jolie, etc. Qu'est-ce qui est vraiment instagrammable, finalement? Ça, c'est une question mais pour un autre épisode.
C'est ça. Pour avoir 5 heures dans ce soir.
Ah oui,
parce
c'est
qu'il
clair.
Y a,
ah,
y a du taf.
C'est clair.
Mais non, les conseils, c'est vraiment de s'écouter, de tester. En fait, c'est tester, sécuriser au début pour bien apprendre à se connaître. Et après, faut apprendre à s'écouter, quoi. Voilà. C'est ça que je donnerais comme conseil.
Et c'est vrai.
Et comme belle conclusion.
Je pense que tout le monde peut ouvrir un petit carnet ou prendre une page blanche et écrire quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'aimerais.
Vous écrivez en gros contrat de base avec moi-même.
Là, c'est ça, exactement.
Et je sais qu'on rigole comme ça, mais il y a pas mal de filles, de personnes, enfin de filles, mais bon, je dis des filles, n'importe quoi. Il y a pas mal d'abonnés qui sont venus me voir en me disant « mais je sais pas trop par où commencer ». Et j'avoue que c'est une belle base pour commencer.
Ah ouais ?
Se retrouver seul avec soi-même devant une page blanche et de se dire, mais qu'est-ce que... Alors, je ne dis pas dans les 10 prochaines années, mais qu'est-ce que là, maintenant, comment j'aimerais vivre cette vie-là et ma vie professionnelle. Et
dans,
si
l'année,
je suis graphiste, dans l'année.
Bah là, on est en plus... Ça tombe bien, parce que l'épisode va sortir dans pas longtemps, il me semble, mais on est
La semaine prochaine. On n'est qu'en janvier, hein, on est début de l'année, donc...
Dans l'année, il faut le faire à rebours. C'est-à-dire que si je veux ça, bah, pour avoir ça, il faut que j'ai ça, donc il faut que je mette ça en place, donc voilà. Et voilà, c'est comme les intentions classiques, quoi. Et peut-être que, du coup... parmi toutes les choses que je veux faire, peut-être que je vais en éliminer parce que ça passe pas, quoi. Encore une fois, c'est bon sens et mathématiques, quoi. Si ça passe pas, j'évacue ça et du coup je suis pas dans la frustration de ah ouais mais j'avais dit que je faisais ça, bah non, ça passait pas, donc je l'évacue tout de suite, quoi.
Et parce qu'il y a aussi ce truc aussi, ça c'est intéressant par rapport aux choses, parce que nous on avait beaucoup, c'est-à-dire que moi quand j'ai un projet, je veux qu'il soit mis en ligne dès demain, donc c'est aussi ça l'important, c'est si on veut pas mettre à mal cette le côté plus slow qu'on veut dans notre routine, dans notre quotidien, il faut aussi se rendre compte que si on a un projet qui arrive et qu'on a vraiment envie, il nous anime, de pouvoir, comme tu disais tout à l'heure, dire à un client ou à soi-même, ce projet-là, il est OK, mais pas tout de suite. Ce projet-là, il est OK, mais peut-être dans 6 mois, peut-être dans... Je le garde dans ma tête, mais... Et ça, c'est pas facile à faire quand on est animé dans ces tripes-là, dès là. Ouais. Et c'est l'erreur qu'on avait faite avec le carnet de recettes l'année dernière, c'est... Et on avait fait aussi des stickers et tout pour les miroirs. Ben en fait, parce que moi, j'ai une idée, je le veux immédiatement. On fonce, on le fait immédiatement. Mais après, j'ai plus l'énergie, je suis fatiguée. Il y a trop de travail et j'ai plus l'énergie pour le mettre en vente. Donc, on a travaillé sur un projet qui n'a jamais vu le jour, par exemple. Ou le carnet de recettes, il a vu le jour, mais avec à retard. Du coup, on l'a mis beaucoup plus tard que ce qui était prévu. Parce qu'en fait, au bout d'un moment... Donc maintenant, c'est vrai que ça, c'est un truc pour moi, c'est surtout pour moi, parce que je parle surtout à moi-même, parce qu'Isadora, elle a moins ça, mais ce truc de Marisa, le projet, il est cool. En revanche, est-ce que t'es obligée de tout faire aujourd'hui? Bah non. Et ça, c'est pas facile.
Mais il faut de connaître, c'est quoi ton point de rupture, quoi. Et comme ça, tu sais que si tu le dépasses, ça passera pas, quoi. Et qu'il faut pas le dépasser, du coup.
Il faut jamais dépasser ce point de rupture. Sinon, c'est
Bon, là, tu peux faire ton contrat avec toi-même.
J'ai fait un coaching qui guide, donc moi, je vous avoue. Maintenant, je connais tout ça. J'ai fait tout ça. Il m'a fallu des larmes.
Et
de la sueur. Mais maintenant, je fais tout ça.
N'oublions pas les flébites.
Et beaucoup de flébites. Pour comprendre qu'il fallait que je tempère cette énergie et cette productivité et ce capitalisme.
Intériorisé.
C'était quoi? Interior capitalism. Bref.
Il faut avoir vu le release pour comprendre. C'est ça. Sinon, t'es
tout seul. Ouais, j'espère qu'il y en a qui l'ont vu parce qu'on l'avait beaucoup partagé quand même. Mais Marisa, toi, tu pourras faire ce petit exercice d'Axel. Voilà.
Allez. On va relever les copies.
Ah, oui. Voilà. À vos crayons, à vos stylos. À vos feuilles de papier. À 4, canson. Que sais-je.
Bon, allez, il y en aura du plus.
Allez! Merci beaucoup Axel pour ce partage qui était très enrichissant. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Je ne sais plus quoi dire parce que j'ai tellement maintenant des pensées partout dans ma tête.
Mais attends, si, parce que j'ai des droits. Tu sais que j'ai oublié normalement notre fin d'épisode de podcast. C'était, on avait quand même une sorte de signature. C'était finir sur toujours la recette, l'idée recette, le truc, le nanin.
Et on a totalement laissé tomber depuis plusieurs podcasts. Donc là, je te prends au dépourvu. Mais si, même si ça n'a rien à voir avec ça, n'oublions pas que manger, c'est la vie. Et qu'on finira toujours l'épisode de podcast avec une idée. Tiens, par exemple, est-ce que tu as testé un légume dernièrement et que tu t'es dit, ah, franchement, c'est super sympa. Ou une recette que tu as testée récemment et tu t'es dit, franchement, je suis contente, il faut que je la fasse connaître au monde, quoi.
Eh bah, si, c'était de faire un mijoté de légumes avec du pruneau et du tofu fumé. Et le mélange tofu fumé et pruneau, ça rend hyper bien dans un mijoté de légumes.
Et voilà. Et nous, on a eu la chance de le voir, mais je ne sais pas si on a le droit de le dire.
Si, tu peux le dire.
Parce que nous, on a eu la chance de voir sur le TikTok d'Axel, parce qu'elle a un TikTok, tu veux le dire ou pas, le nom?
Oui, le TikTok, c'est recette VG, recette au pluriel, et VG. Et en fait, j'avais lancé ça par pur test pour tester l'algorithme TikTok et comprendre. Et d'ailleurs, pour en revenir à sobriété entrepreneuriale, c'est aussi d'avoir du temps pour moi pour tester des choses hors client. Et ça faisait partie d'un petit labo de test. Et ça a plutôt bien pris, donc c'est cool, quoi.
Ah, c'est trop bien. Et moi, ça m'avait vraiment inspiré, parce que je me dis, la nana, elle est community manager, elle va se créer un compte qui n'a rien à voir avec son métier pour tester, pour potentiellement des futurs clients pouvoir mieux les guider. C'est quand même... Enfin, j'ai jamais entendu ça, mais c'est génial. Tu es investie.
Bah, en fait, c'est la meilleure façon de faire. Et moi, j'aime bien tester et après pouvoir dire les vrais résultats, quoi. Mm-hmm. C'est comme ça que ça marche. Et comme je savais que j'allais avoir mon client... Donc, il s'appelle Ciao Ciao. Si vous voulez aller le suivre sur les réseaux sociaux, c'est ciaociao.shop. C'est des kits pour transformer sa voiture en minivan. Et en fait...
Peut-être que vous l'avez vu la semaine dernière dans l'émission
« Qui veut être mon associé ?»
Et ça, c'est chouette.
Et c'est un super projet. Voilà, et je pense que certains pourraient être intéressés par ce projet-là. Et en fait, on a envie de développer le TikTok. Moi, j'ai élaboré toute la stratégie, mais... Je savais que ce n'était pas le moment, pas le bon timing pour le lancer, parce qu'on avait plein d'autres choses à faire, donc il sera lancé plus tard. Mais pareil, je dois ronger un peu mon frein parce que je sais ce que j'ai envie de faire et je pense que ça pourrait bien marcher. Et je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir le mettre en place, tout en sachant que je ne pourrais pas le mettre en place correctement maintenant, puisque ce n'est pas le bon timing. Mais ça rejoint ce que tu disais, Marisa, c'est que parfois, ça demande de dealer avec sa frustration interne, mais c'est comme ça. Et voilà, donc je sais plus ce que je disais avant, mais
du coup t'avais cette envie d'investir TikTok pour tes clients et que notamment Ciao Ciao, et que tu t'es dit je vais voir moi quel est cet écosystème que tu connaissais pas tant.
C'est ça, que je connaissais pas tant, et surtout de comprendre des notions de montage vidéo. Moi, j'avais pas fait beaucoup de montage vidéo, d'écriture, de sous-titrage, de rythme aussi. En fait, qu'on avait un peu... Je trouve qu'avec les Reels sur Instagram, on a un peu pris le pli, mais franchement, sur TikTok, c'est vraiment d'autres règles. Hein.
Complètement. Moi, j'ai des cours avec toi, parce que moi, je n'ai jamais été sur TikTok de ma vie.
Ouais.
Moi, j'ai juste pris... Enfin, je suis sur mon navigateur, tu nous avais dit. Donc,
ouais.
Je regarde tous tes Reels tous les jours, parce qu'elle est en challenge janvier. Un Reels, il faut que j'arrête de dire ça. Un TikTok par jour, en janvier VG. Et du coup, je regarde tout et je me dis, en effet, c'est pas les mêmes... Il y a certains codes qui sont totalement similaires, mais il y a d'autres codes, on sent qu'ils changent par rapport à Instagram. Ouais.
Et je suis vraiment très contente d'avoir lancé ce truc-là, parce que j'ai vraiment... beaucoup appris et je serais beaucoup plus à l'aise à le vendre. Enfin, même avec Ciao Ciao, par exemple, j'ai tout de suite su ce qui me semble être intéressant. Après, on verra, on a toujours beaucoup de surprises. Mais en tout cas, c'était un bon test et c'est vraiment cool de faire des laboratoires de tests. Enfin, moi, c'est mon kiff. Ça rejoint aussi le côté d'aimer faire, quoi. J'aime bien tester, vraiment monter mes vidéos, le faire, écrire. Ça me fait vraiment kiffer, quoi.
Et c'est drôle que tu dises ça parce que...
T'avais
fait une conclusion. Non, parce que je rebondis, parce que c'est vrai que parfois, quand on démarre, et ça, c'est vraiment pour les personnes aussi qui démarrent, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui disaient ça, parfois, on fait des tâches, et notre père pourra comprendre s'il écoute un jour cet épisode, mais on fait des tâches qui ne donnent pas de l'argent tout de suite. Et ça, c'est le truc de l'entrepreneur. Sa plus grande crainte, c'est de travailler pour rien. Sauf que moi, quand j'ai lancé YouTube, quand j'ai des droits, viens, on lance une chaîne YouTube, notre père, première réaction... Qu'est-ce que ça ramène comme argent?
Ah bah non.
En fait, moi, tout le travail que je fais en amont d'apprendre à monter une vidéo, d'apprendre, enfin, tout ce que j'ai fait, ça m'a rapporté zéro. Mais moi, je disais à papa, j'ai une vision que ça peut un jour, déjà pour l'entreprise à la base, c'était pour promouvoir Snackies, etc. Mais je suis sûre que c'est le bon endroit. Mais il y a toujours des moments où tu vas travailler, ça va pas faire de l'argent sonnant, trébuchant tout de suite. Et ça, c'est le truc de l'entrepreneur, de toujours vouloir aller dans le truc qui va te donner tout de suite de l'argent, plein d'argent. Alors, bien sûr, il faut savoir si le business que tu vas créer, il est rentable à terme, parce que sinon, ça sert à rien de s'investir dedans. Mais dedans, il y aura des tâches que tu vas faire qui vont te faire plaisir, parce que moi, apprendre le montage vidéo, j'ai adoré ça. Mais en même temps, l'argent ne sera pas tout de suite dans ton compte en banque. Je trouve ça intéressant, parce que toi, du coup, là, aujourd'hui, tu as fait plein de TikTok en ce moment, tu en fais pas mal, etc. Ça ne te rapporte pas d'argent tout de suite, mais potentiellement, après, toi, tu vas pouvoir le vendre auprès de tes clients, ce service. Mais moi, je suis experte. Ah, parce que maintenant, tu as fait des TikTok, tu es experte. Tu peux le mettre dans ta bio, voilà, experte.
Alors, même si je dis toujours qu'on n'est jamais expert en réseaux
sociaux. Non, non. Mais en tout cas, tu sais que moi, je suis capable de vous proposer, que moi, par exemple, je ne saurais pas. Si demain, je suis community manager, j'ai aucune notion de TikTok. Je pourrais pas proposer ce service-là. Donc, c'est intéressant que tu aies vu ça comme ça, toi aussi, ce petit labo. Comme moi, je peux dire que c'est un petit labo aussi d'apprendre à faire des vidéos YouTube.
Complètement. Ouais.
Ouais, mais je trouve ça plus sympa de dire un labo que moi je disais juste j'apprends à faire des vidéos YouTube.
Bah labo, ouais, j'aime
bien. Ça, c'est sympa, j'aime bien.
Je disais même lab, tu vois.
Lab, lab, lab c'est encore mieux. Voilà, c'est comme le meal prep finalement. Voilà, moi avant d'être sur YouTube, je disais juste je prépare mes repas pour la semaine. C'est ça. Après j'ai fait des meal prep.
J'ai un TikTok lab.
Okay. T'as un TikTok lab, et ben c'est trop bien, trop chouette. Donc crée des labs aussi. Enfin bref, Isadora, tu peux à toi le micro, tu peux le conclure.
Eh bien merci pour cet épisode de 1h30 presque.
Ah, oui.
Merci de nous avoir écoutés, d'avoir tenu jusque-là, tenu bon.
Merci beaucoup.
On espère que ça vous aura inspiré, comme nous, ça nous inspire toujours d'entendre nos invités au micro. Merci Axel.
Bah, merci à vous deux, c'était très chouette.
Oh bah ouais. C'est une bonne petite discussion.
Comme d'habitude.
Entre copines, c'est ça, ça peut être même 3h, 4h, sauf qu'on on ne s'enregistre pas. On serait exactement la même chose.
Exactement.
Merci beaucoup et on se dit à très vite pour un prochain épisode. À plus.
Au revoir.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.